Vous êtes sur RTL.
Petit matin. Merci. On vous retrouve avec joie dès 4h30 lundi prochain.
À volontiers.
Le contrat du siècle dénoncé par l'Australie pour nos sous-marins est une incroyable bombe à retardement parce qu'elle traduit un équilibre des forces stratégiques où l'Europe et la France semblent aujourd'hui isolées. L'Amérique, l'Australie et le Royaume-Uni s'installent définitivement dans le Pacifique pour contrôler la puissance chinoise. C'est un bouleversement. Nous y reviendrons dès 7h20 avec le spécialiste Antoine Bondaz. Voilà pour l'avenir de la planète. En ce qui concerne l'avenir de notre santé, on se pose de sérieuses questions sur le retour des maladies hivernales, grippe pour les plus âgés, bronchiolite pour les plus jeunes, le Covid est passé par là et on se demande si nous ne serions pas sérieusement désarmés côté vaccin. Les explications d'Agathe Landais dès 7h15. Nous prendrons donc un bon bol d'air marin à 7h40 puisqu'Alba Ventura reçoit le navigateur Jean Le Cam pour la sortie de son livre Toute voile dehors. Et puis la question politique qui fait beaucoup parler, surtout en région d'ailleurs, le gouvernement va-t-il reculer face aux chasseurs à 7 mois de la présidentielle? La question est posée, nous serons avec le conseil politique de leur fédération, Thierry Coste, qui sera notre invité à 8h20. Enfin, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais Cyril Lignac veut nous parler aujourd'hui marron glacé. Je sors donc mon anorak et ma cagoule en attendant Noël. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, un premier bilan après le passage aux 30 km/h dans la capitale.
Les Parisiens ont commencé à lever le pied. Le trafic est en baisse également. Enquête et info RTL, signé Christophe Bourou, à suivre. On va parler de cette rentrée difficile pour les élèves de 6e, attaqués sur les réseaux sociaux par les plus grands, pour la seule et unique raison qu'ils sont nés en 2010. Dans ce journal également, le son de l'horreur, l'enregistrement de l'attaque du Bataclan sera diffusé aujourd'hui à l'audience. RTL a suivi une victime qui fait face tous les jours aux terroristes. On sera au Canada, vous entendrez l'émotion et la joie d'une mère qui retrouve sa fille après un an et demi de séparation pour cause de Covid. Et puis le sable un peu trop blanc des plages du Pas-de-Calais, des pains de cocaïne s'échouent depuis quelques jours sur la côte, gare aux petits malins qui voudraient les ramasser.
Alors après la cocaïne, la politique, Olivier Bost.
Ah, rien à voir, hein, non, mais ce matin quand même, 5 nuances de décroissance mais chez les écolos.
Vous expliquez tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin.
Depuis le 31 août, la vitesse à Paris, on en a beaucoup parlé sur RTL, est limitée à 30 km/h. Objectif assumé par la maire de la ville, Anne Hidalgo, faire baisser la vitesse et le trafic routier. Eh bien, les premiers résultats semblent aller dans ce sens. Coyote, le leader des GPS connectés, a compilé les données de ses clients, Christophe Bourou.
Sur les 15 premiers jours de septembre, Coyote a enregistré une baisse de la vitesse moyenne en semaine. Celle-ci est passée de 23,7 à 22,7 km/h dans Paris. Alors pour l'instant, l'impact est minime car c'est seulement 1 km/h de moins. Mais il faut dire que dans la capitale, la difficulté est plutôt de rouler à 30 km/h qu'en dessous en raison des travaux et des bouchons. Justement, l'impact sur le trafic semble lui plus significatif car les données révèlent déjà une baisse de l'ordre de 4%. Bon, s'il est encore trop tôt pour dessiner une tendance de fond, cela semble aller dans le sens de la mairie qui souhaite que les automobilistes délaissent la voiture au profit des transports en commun ou des vélos. À titre d'exemple, Grenoble, pionnière en la matière, qui est passée aux 30 km/h il y a 5 ans, a vu son trafic chuter de 10% et la vitesse moyenne de 5 km/h.
Information RTL et enquête signée Christophe Bourou et le mouvement des 30 km/h qui s'étend dans beaucoup de villes françaises. Bordeaux, Clermont-Ferrand ou encore Lyon, Toulouse et Périgueux vont sauter le pas dans les mois qui viennent. Emmanuel Macron est-il sous influence des chasseurs? Nous nous posons la question ce matin sur RTL. Après la décision d'autoriser à nouveau certaines méthodes traditionnelles de chasse d'oiseaux, comme la chasse au filet ou la chasse par les étranglements, alors qu'elles sont interdites au niveau européen, les défenseurs des animaux dénoncent un cadeau électoral fait aux chasseurs qui sont 1 million en France. On en parle dans le détail avec la brigade RTL tout à l'heure à 8h15.
Les sages-femmes vont voir leur salaire augmenter.
Oui, 100 euros brut par mois à partir du mois de janvier. Il y aura en plus une prime de 100 euros supplémentaires. Le ministre de la Santé l'annonce pour un budget total de 40 millions d'euros par an. Le phénomène est à la fois incompréhensible et inquiétant. Depuis la rentrée, certains élèves de 6e sont harcelés. C'est un mot d'ordre, un hashtag, comme on dit, qui est apparu sur les réseaux sociaux. Anti-2010, avec un appel donc à harceler les enfants qui sont nés cette année-là pour moquer leurs jeux enfantins parce qu'ils sont les plus petits de la cour de récré. Julien Fautra, par exemple, a rencontré cet élève de 6e.
Moi, je dis surtout pour les 2010, il faut faire très attention et un peu cacher son téléphone. Et les 2010, faut pas trop aller sur les réseaux sociaux.
Est-ce que tu sais pourquoi on se moque de vous, les 2010?
On est les tout petits, c'était mieux quand on était dans l'année 2020, quand on était en CM2 et qu'on était les plus grands. Mais comme dit toujours ma mère, faut toujours avoir confiance en soi, et c'est ce que j'essaye de faire.
Voilà, il est courageux, ce petit élève de 6e.
Les plus grands sont devenus les plus petits, en fait.
Exactement, c'est ce qui se passe tous les ans. Et le phénomène prend de l'ampleur, ceci dit, le mot d'ordre anti-2010, les parents s'en inquiètent de plus en plus. Et hier soir, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait cette déclaration dans un message tout à fait officiel.
Rappelez-vous, quand vous étiez 6e vous-même, c'était spécial d'arriver au collège, et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Eh bien, soyez bienveillants à votre tour. Soyez des vecteurs de fraternité. Soyez des ambassadeurs contre le harcèlement. Et dites à tous les élèves nés en 2010, dites à tous les élèves de 6e, bienvenue au collège. Donc, vive les 6e, vive les collégiens, vive les collégiennes et vive la fraternité au collège.
Et voilà pour ce message officiel sur une petite musique du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Le son de l'horreur, aujourd'hui au procès du 13 novembre. Un enregistrement de l'attaque du Bataclan va bien être diffusé. RTL a suivi une victime qui s'attend à une journée très éprouvante. A tout de suite.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Depuis 7 jours que le procès du 13 novembre a commencé, elles ont le courage d'affronter les terroristes. RTL a pu suivre l'audience d'hier aux côtés d'une victime du Bataclan.
Oui, Sophie a 37 ans aujourd'hui. Elle a été touchée au Bataclan par deux balles de Kalachnikov. Elle témoignera le 12 octobre prochain, mais elle a décidé, pour se préparer psychologiquement, de suivre les audiences cette semaine. Et Nicolas Burnan a pu l'accompagner. Reportage.
Guidée par des gendarmes lourdement armés, Sophie passe d'abord les portiques de sécurité. Emprunte ensuite très émue le couloir qui mène à la salle d'audience.
On repense à tout ce qu'on a vécu, ça fait un peu des espèces de flashbacks en fait. Du Bataclan, de ma jambe, des cris, les coups de feu, c'est ça qui revient. Toujours quand même un peu de peur.
La jeune femme de 37 ans s'installe sur le banc des parties civiles. Un pantalon noir cache sa longue cicatrice à la jambe et au mollet. À la barre, un enquêteur de la police revient en détail sur les photos des scènes de crime des terrasses.
C'était dur à voir. Ça rappelle ce que j'ai vu dans le Bataclan, forcément. Et qu'est-ce qu'ils ressentent en voyant ça? Est-ce qu'ils sont tristes, indifférents? Est-ce qu'ils sont heureux? Et pourquoi? Je viens pas avec beaucoup d'attentes, mais avec beaucoup d'espoir.
Dans le box silencieux, Salah Abdeslam, barbe noire, cheveux coiffés en arrière, fixe le témoin. Sophie a croisé son regard.
J'imaginais quelqu'un d'immense, avec une énorme voix bien grave. Et en fin de compte, c'est juste un mec qui dit beaucoup de conneries. J'aimerais m'asseoir à une table avec lui et discuter. Qu'il sache ce qu'ils m'ont fait subir, ce que je vis encore aujourd'hui. Je veux pas reculer.
Dans quelques semaines, Sophie appréhende déjà de faire face aux terroristes à la barre pour lui montrer qu'elle est toujours debout 6 ans après cette soirée au Bataclan.
Reportage de Nicolas Burnan et le courage de Sophie alors que va démarrer aujourd'hui une audience éprouvante. L'enregistrement de l'attaque du Bataclan va être en partie diffusé. C'est un technicien dans la panique qui avait abandonné son dictaphone le soir du drame. En bref, la France va se défendre après le camouflet des sous-marins australiens. Rien ne viendra compenser évidemment la perte de ce contrat du siècle à 56 milliards d'euros. Mais Paris va demander des indemnités à l'Australie et en tout cas les tensions sont très fortes avec les États-Unis.
La France victime de la rivalité sino-américaine, Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, sera avec nous dès 7h18. Allez, une nouvelle plus réjouissante maintenant avec la réouverture des frontières au Canada. Les familles françaises se retrouvent après un an et demi de séparation.
Oui, depuis le 18 mars 2020, le pays était complètement bouclé. Il y a, vous le savez, beaucoup de Français au Canada, avec des familles qui sont donc restées séparées pendant très longtemps. Mais enfin, depuis 10 jours, les liaisons ont repris. Arnaud Touche est donc monté dans l'avion direction Montréal, avec au programme de la joie et des retrouvailles.
Dans le hall d'arrivée de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, les larmes coulent sur les joues de Sylvie, qui ne quitte plus sa fille.
C'est du bonheur, j'ai plus la notion du temps, en fait. Je suis ravie.
Ce moment, elle l'espérait et l'imaginait depuis des mois maintenant.
Je retrouve ma fille que je n'ai pas revue depuis 20 mois, avant le Covid. Très émue, même j'ai l'impression d'être dans un rêve, en fait. Je ne réalise pas vraiment, là encore, mais je suis une maman heureuse.
Et après des dizaines d'heures passées en visio, sa fille, elle aussi, est ravie de pouvoir enlacer sa maman.
Je ne voulais pas trop y croire, là, je commençais à y croire aujourd'hui.
C'est quoi le programme, du coup?
C'est l'apéro ce soir.
Et ces scènes se multiplient depuis quelques jours. Carole vient de retrouver Mélissa, qu'elle n'avait pas vue depuis 5 mois.
C'est génial, je suis trop contente.
Sa fille s'est installée au Canada pour ouvrir une boulangerie.
C'est vrai que les proches nous manquent et il nous tardait que les frontières réouvrent pour qu'on puisse accueillir notre famille. Et la première est arrivée, j'espère qu'il va y en avoir d'autres.
Depuis le 7 septembre, les vols entre Paris et Montréal sont presque pleins. Et en temps normal, chez Air France, c'est même, après New York, la deuxième destination internationale la plus fréquentée.
Merci beaucoup Arnaud Touche, envoyé spécial d'RTL au Canada.
On risque d'être plus touché cet hiver par la grippe ou la gastro.
Oui, à cause des confinements, des fermetures de bars, des gestes barrières l'année dernière, on a été très peu touché par ces maladies. Résultat, on est moins bien protégé collectivement cette année. Et le virus de la gastro, par exemple, est déjà très présent dans les Hauts-de-France ou encore dans le Grand Est. On va en parler dans le détail avec Agathe Landais, la brigade RTL, juste après ce journal à 7h15.
Et maintenant une question, voire une énigme. Que se passe-t-il donc sur les plages du Pas-de-Calais? Le sable est parfois, comment dirais-je, un peu trop blanc.
Oui, voilà. Pardon, la blague est un peu facile, mais effectivement. Il se trouve que depuis samedi, entre Boulogne et Calais, des trafiquants ont dû avoir un problème en mer, mais des pains de cocaïne s'échouent sur la plage, Vincent Serrano.
Oui, le premier paquet découvert samedi dernier par des promeneurs. D'autres pains sont retrouvés cette semaine dans le même secteur, entre le Cap Grinet et la plage d'Ambleteuse. 11 pains au total, près de 13 kilos de cocaïne en tout, valeur de la marchandise, 750 000 euros. Alors comment cette drogue s'est retrouvée là? Deux hypothèses. Les trafiquants l'ont jeté in extremis par-dessus bord avant un contrôle où leur embarcation a simplement chaviré. Le problème, c'est qu'ils transportent généralement beaucoup plus que ça. 70 kilos retrouvés sur les plages de la Manche en mai dernier, plus d'une tonne en 2019 dans le sud-ouest. 90 gendarmes sillonnent donc les plages du Nord avec leurs jumelles pour repérer les nouveaux pains échoués, mais surtout dissuader des touristes d'un genre un peu particulier qui seraient tentés d'enfouir leur découverte ou d'emmener la cocaïne tranquillement à la maison. C'est une mauvaise idée. Prison avec sursis l'année dernière pour un artisan des Landes et même 8 mois ferme pour un surfeur en 2019 qui avait gardé 1 kilo chez lui. Ça paraît bête à dire, mais si vous trouvez de la cocaïne échouée sur une plage, appelez la police.
Exactement, merci pour ce bon conseil Vincent Serrano. On termine avec le football et les résultats de la Coupe d'Europe hier pour la première journée des phases de poule de Ligue Europa. Lyon s'est imposé 2-0 en déplacement chez les Glasgow Rangers et prend la tête de son groupe. Monaco s'est imposé 1-0 à domicile face au Sturm Graz. En revanche, Marseille a dû se contenter du match nul 1 partout au Lokomotiv Moscou et prend la deuxième place de son groupe puisque dans le même temps, Galatasaray s'est imposé face à la Lazio de Rome.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 12, le 13, le 3, le 9, le 4 et le 16. La dernière minute, c'est le 13.
Et le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois. Il est 7h13, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, les plus de 120 000 inscrits à la primaire écologiste votent jusqu'à dimanche pour choisir leur candidat à la présidentielle. Y a-t-il de vraies différences entre tous ces candidats, Olivier?
Alors, au-delà des personnalités, les différences sont plutôt à chercher du côté de la décroissance. Et ça nous donne 5 nuances de décroissance. Alors, je vous propose de les démasquer, d'essayer de les comprendre et puis surtout d'en saisir les enjeux politiques de ceux qui assument totalement de tout ralentir à ceux qui planquent leur penchant décroissant.
Très bien. Alors, faut commencer par quoi?
Par les plus radicaux, souvent les plus simples à comprendre. Quoique, dans cette catégorie, il y a Sandrine Rousseau. Alors, elle défend l'écoféminisme. Mm-hmm. C'est la lutte contre toutes les dominations des hommes sur les femmes, mais aussi de l'homme sur la nature. En gros, c'est « je suis victime, donc je veux le pouvoir ». Alors, essayez quand même de critiquer cette façon de voir les choses et vous verrez, vous serez aussitôt accusé de vouloir exercer votre domination. Alors, Delphine Bateau, elle, défend plus la décroissance. Nous vivrons mieux avec moins. Et il faut la croire, la décroissance, ce n'est pas la récession. C'est acheté en brocante ou sur le bon coin. C'est l'ancienne ministre de l'écologie qui le dit. Oui.
Alors, c'est tout pour les candidats qui assument la décroissance et les autres?
Alors, Éric Piolle, le maire de Grenoble, lui, refuse de parler de décroissance. Lui est plutôt pour casser le capitalisme. Il veut mettre un frein au culte de l'argent, dit-il. Une vision très d'extrême gauche, mais il préfère dire humaniste. Alors au milieu de tout ça, le plus modéré est Yannick Jadot. Le député européen refuse aussi de parler de décroissance. Il ne veut pas non plus parler de croissance verte. Son truc à lui, c'est la transformation et l'investissement de masse. Il reste dans l'économie de marché, mais il l'oriente.
Excusez-moi, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi ces deux candidats refusent de parler de décroissance.
Parce que ça fait tout de suite penser à l'écologie punitive, une formule de la redoutable Ségolène Royal pour dénoncer toute contrainte. La décroissance, ça fait peur en fait. Personne n'a envie de se voir restreint dans ses envies de consommer ou empêché de se déplacer comme il l'entend. Autrement dit, c'est électoralement invendable. La décroissance, ça sent la punition et des lendemains bien tristes.
Et pourtant, il faut bien en parler.
Oui, car ce positionnement sur la décroissance n'est pas seulement philosophique. Il aura des conséquences politiques. Si Yannick Jadot, le moins décroissant donc, est le candidat, il va retrouver dans son jardin Anne Hidalgo. Éric Piolle ou Sandrine Rousseau seront eux plus en concurrence avec Jean-Luc Mélenchon. Ce sont certes des nuances de décroissance, mais elles changent tout sur l'offre à gauche pour 2022.
Merci beaucoup Olivier Bost. Dimanche, rendez-vous à midi pour le grand jury RTL Le Figaro LCI avec Xavier Bertrand qui sera l'invité de Benjamin Sportouche.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h15, alors que la situation épidémique est optimale hein, sur le plan Covid. Les épidémiologistes tirent d'ores et déjà la sonnette d'alarme pour cet hiver. La brigade RTL va nous aider à comprendre ce matin pourquoi ils redoutent en fait un retour en force de certaines maladies infectieuses. Bonjour Agathe Landel.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service santé d'RTL. D'abord, de quelles maladies parle-t-on exactement?
Eh bien, de toutes celles qui ont quasiment disparu l'an dernier grâce aux gestes barrières, à commencer par les gastro-entérites. 1 à 4 millions de consultations chez le médecin par an contre 145 000 cette année. Il y a aussi eu les infections respiratoires. Les urgences ont pris en charge 3 à 4 fois moins de bronchite aiguë et 40% de bronchiolite en moins chez les tout-petits. Mais l'infection qui inquiète le plus avec le recul des gestes barrières, c'est la grippe saisonnière.
Mais pourtant, il n'y a pas eu du tout d'épidémie de grippe l'hiver dernier.
Eh bien, c'est justement le problème, Yves, car du coup, nous n'avons aucune immunité de groupe. Nos organismes n'y ont pas du tout été confrontés à ce virus l'hiver dernier. Ils y seront donc plus vulnérables cet hiver et on tombera plus facilement malade.
Et les vaccins antigrippaux pourraient ne pas suffire?
Ils sont efficaces à 50-60% à peu près hein, contre les formes graves. Ils vont donc limiter les entrées à l'hôpital. Le gouvernement en a commandé plus cette année, 2 à 3 millions de doses supplémentaires et va inciter largement à la vaccination, en particulier pour les plus âgés, les malades chroniques et les soignants. Pour le reste de la population, il faudra surtout continuer d'appliquer les gestes barrières, efficaces aussi contre ces virus et qui permettront d'éviter l'engorgement des hôpitaux.
Et on ne dira jamais à quel point le lavage de mains est quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup Agathe Landais pour toutes ces précisions. Dans un instant, retour sur ce camouflet à 56 milliards d'euros. La commande du siècle d'une douzaine de sous-marins français par l'Australie a donc été annulée. Nous allons vous expliquer les dessous de cette rupture. 56 milliards d'euros, mais aussi de la stratégie à l'échelle de la planète. Croyez-moi. A tout de suite.
Yves Calvi. RTL Matin.
Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes spécialiste de la Chine, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Antoine Bondaz, si nous faisons appel à vous ce matin, c'est pour connaître et mieux comprendre les dessous de la rupture du contrat à 56 milliards entre la France et l'Australie. Les Australiens, je le rappelle pour nos auditeurs, viennent en effet d'annuler une commande de 12 sous-marins de défense au profit d'un modèle américain. On a un peu de mal à comprendre de prime abord le rôle de la Chine dans cette annulation. Est-ce que c'est bien la menace chinoise, au sens le plus large, qui contraint l'Australie à faire appel aux Américains?
Alors disons que c'est la menace chinoise qui, à la base, explique hein, la volonté de l'Australie de renforcer ses capacités de défense et notamment de moderniser sa flotte de sous-marins. La vraie différence entre les sous-marins qui ont été négociés avec la France à la demande de l'Australie et les sous-marins que les États-Unis vont de fait fournir dans les années à venir, oui, c'est la question de la propulsion. L'Australie demandait jusqu'à présent des sous-marins à propulsion conventionnelle et là, la surprise stratégique, entre guillemets, c'est que les Américains acceptent de leur transférer, de partager une technologie de propulsion nucléaire de leur sous-marin, alors même qu'ils ne l'avaient pas fait depuis les années 50 et un transfert à l'époque au Royaume-Uni.
Mais excusez-moi, le moyen de transport est-il à ce point important? J'allais dire le moteur.
Alors le moteur est important pour plusieurs raisons, mais un moteur à propulsion nucléaire, des turbines nucléaires, permettent notamment une plus grande endurance de ces sous-marins, et ça dans le cadre d'opérations militaires dans un théâtre indo-pacifique, dont on reparlera, qui est un théâtre gigantesque, ça compte, mais encore une fois, la surprise, c'est que les Australiens, depuis 2014 et le début des négociations, demandaient explicitement des sous-marins à propulsion conventionnelle, et là la surprise, c'est que, entre guillemets, mais du jour au lendemain, ils acquièrent désormais des sous-marins à propulsion nucléaire.
Alors, quels sont désormais les enjeux dans cette zone que l'on appelle donc Indo-Pacifique ?
Alors, la zone Indo-Pacifique, c'est une zone aujourd'hui extrêmement importante. Elle rassemble, entre guillemets, les océans Indien et les océans Pacifiques. Et pour la France, c'est une zone particulièrement importante. Et c'est ce qui nous différencie, notamment de nos partenaires européens. La France, dans la zone, elle y a des intérêts de souveraineté. Il y a plus de 1,6 million de Français qui vivent dans des territoires français dans la zone, que ce soit de Mayotte à la Polynésie française, de l'île de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie. Cette zone hein, représente et accueille plus de trois quarts de la zone économique exclusive de la France. Et la France, il faut le rappeler, a la deuxième espace maritime mondial. Et puis, il y a entre 7000 et 8000 militaires français hein, qui sont déployés en permanence dans la zone. Ce sont donc des intérêts extrêmement importants pour la France. Ce n'est pas que de la politique étrangère, c'est aussi des questions de sécurité pour simplement protéger les ressortissants et les citoyens français.
Mais ça veut dire que du point de vue des Américains et des Anglo-Saxons, disons-le au sens large aujourd'hui, la France ne suffisait pas pour maintenir cet équilibre ?
Alors, ce qui est très important de rappeler, c'est que l'Australie, aujourd'hui, elle a un allié qui est majeur, ce sont les États-Unis. Or, depuis une dizaine d'années, désormais, ce mouvement a été amplifié récemment sous l'administration Trump et évidemment sous l'administration Biden. Les États-Unis se reconcentrent sur la zone Indo-Pacifique, puisqu'ils considèrent aujourd'hui que la Chine est leur principal rival stratégique et donc qu'ils doivent adresser, en quelque sorte, cette menace chinoise. C'est une inquiétude, depuis déjà quasiment 10 ans, que les Américains délaissent le Moyen-Orient, délaissent l'Europe au profit de l'Indo-Pacifique. Et du point de vue des Australiens, il est extrêmement important de renforcer les relations de défense avec les États-Unis, qui sont encore aujourd'hui les premiers fournisseurs, entre guillemets, de sécurité pour les Australiens. Et donc, ça explique notamment ce rapprochement avec l'Australie et surtout, puisqu'il ne faut pas l'oublier, l'annonce d'une nouvelle alliance trilatérale entre Washington, Canberra et Londres.
C'est un bouleversement stratégique et on a compris aussi que Joe Biden sait faire du Trump, si je puis dire. Merci beaucoup Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
RTL Matin, Yves Calvi.
C'est l'heure de notre pépite musicale avec vous, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est que Juliette Armanet fait son grand retour.
Oui, plus de 4 ans après Petit Ami, Juliette Armanet dévoile le premier extrait de son deuxième album, un disque qui s'appellera Brûler le feu, sorti prévu cet automne. Ces derniers mois, Juliette Armanet a enregistré des duos avec Christophe, Eddie Mitchell, Véronique Sanson, Benjamin Biolay ou encore Julien Doré, preuve de la place qu'elle a rapidement prise dans la chanson française. Juliette Armanet revient avec Le dernier jour du disco, et derrière son piano.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin, le soleil.
Production tout en douceur et c'est trompeur. Le dernier jour du disco ne convoque pas la nostalgie des années 70. C'est une tornade pop, dansante et addictive. Elle raconte les dernières minutes avant qu'on rallume la lumière, m'a confié la chanteuse de 37 ans. C'est une chanson sur un grand amour, un passage entre deux mondes, détaille Juliette Armanet. Elle l'a écrite très rapidement, comme une fulgurance. D'ailleurs, elle a gardé sa toute première prise de voix faite à la maison pour la version finale qu'on entend comme un cri du cœur, dit-elle. Nouvelle chanson de Juliette Armanet à écouter en stéréo, donc nouvel album avant la fin de l'année. Elle m'a promis un disque brûlant de désir, de corps et de déclaration.
Quelque chose me dit qu'on va souvent l'entendre sur RTL, cette chanson. Merci beaucoup Steven Bellery. Dans un instant, nos grosses têtes et notre météo avec Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Yves.
A tout de suite.
RTL Matin.
Dois-je vous préciser que nos grosses têtes sont en pleine forme à cette rentrée et qu'ils vous donnent rendez-vous dès 15h30. Et c'est la dernière publication de Stéphane Plaza sur les réseaux sociaux qui fait réagir mademoiselle Ariel Dombal.
Non, mais Stéphane a frappé fort en montrant sa lune.
C'est-à-dire ?
Sur Instagram. C'est mon chauffeur qui m'a dit. Mais vous savez,
c'est mon chauffeur.
Vous savez ce qu'il a fait, Stéphane ? Il l'a montré, mais j'ai dit, mais quoi ? Mais mademoiselle, enfin...
Ah, votre chauffeur vous appelle mademoiselle ?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ah ben écoutez, les actrices...
Il faut qu'il nettoie son rétro.
Mais on a le droit. Non, mais c'est très complexe, en fait, la législation.
Oui.
Il y a certaines parties du corps très précises qui passent sous la loi. Enfin, c'est étrange, oui. Ouais, mais les fesses, c'est pas interdit.
Quand t'as une tête de cul comme Bravo, ça fait quoi?
On feriez mieux de vous taire, vous.
Non, mais la vieille. Qu'est-ce qu'elle a, Mercadier? Elle est ressuscitée, là.
Attends.
Voilà, tout est dit, les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Rendez-vous entre 15h30 et 18h. Et je ne vous le dirai jamais assez, 24h sur 24, sur l'application mobile RTL spécial grosses têtes. Louis Baudin, on rêvait tous de sortir le short pour notre fin de semaine, enfin, ou assimilé. C'est plutôt l'anorak, ou en tout cas le parapluie qui sont utiles.
Oui, le parapluie. Alors, même si aujourd'hui, on devrait enfin avoir une accalmie, je pense aux régions du Sud qui ont connu encore beaucoup de pluie hier, des averses orageuses très fréquentes, non seulement sur les reliefs, mais également en plaine. Bien, ce matin, là, enfin, il respire un peu. Il n'y a plus de précipitation, sauf autour du Massif central. Mais ailleurs, donc, retour d'un temps sec, avec même des éclaircies qui devraient se développer au fil des heures. Dans la moitié nord, nous, on retrouve des brouillards. Des brouillards du côté d'Auxerre, à Saint-Quentin, à Amiens, à Abbeville. Il y en a aussi dans le sud, du côté de Guéret, Millau, Mende. Moins de 100 mètres de visibilité, quand même. Donc, de l'humidité ce matin, pas sous forme de précipitation. Et puis, cet après-midi, les éclaircies vont finir par l'emporter quasiment partout. Alors, il restera un tout petit risque d'averse, mais en montagne seulement, sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Et puis en fin de journée, arrivera déjà une perturbation sur la pointe bretonne avec des nuages et de la pluie. Côté température, ça baisse ce matin, quelques valeurs en dessous de 10 degrés. À Reims, à Chartres, à Nancy, on est entre 8 et 9 degrés seulement. Et cet après-midi, à peu près des valeurs de saison, comme hier, 21 à 24 degrés dans la moitié nord, 23 à 24 degrés dans le sud, jusqu'à 27 près de la Méditerranée. Et 29 même en Corse.
Un petit temps pré-automnal. Oui, merci beaucoup, Louis Baudin. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 17 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce sera à coup sûr un moment intense et douloureux. Tout à l'heure au Palais de Justice de Paris, on va entendre le son des attentats du 13 novembre 2015. Enregistrement de l'attaque du Bataclan récupéré sur un dictaphone abandonné. Certaines parties civiles ne viendront pas, d'autres au contraire veulent s'y confronter au tribunal ou par web radio. Une épreuve périlleuse selon l'avocate Isabelle. Belle test.
Être dans la salle d'audience représente pour moi un grand danger. Ici, au palais, nous avons des psychologues qui peuvent effectivement prendre en charge des angoisses, des crises d'angoisse. Mais chez soi, c'est très difficile. Je pense que c'est même très dangereux. Donc c'est pour ça que je les ai vraiment mis en garde en leur disant « si vous écoutez, attention ». Et je leur ai demandé aussi d'être dans une pièce, peut-être tout seul, mais qu'à côté d'eux, un proche soit présent. Parce qu'une crise d'angoisse peut être effrayante et surtout peut faire que la personne ne puisse pas réagir et même pas appeler. Je leur ai également dit, s'ils avaient des médicaments, de les garder à proximité. On ne sait jamais.
Maître test au micro RTL de Cindy Hubert. Le phénomène inquiète au point que le ministre de l'Éducation s'en mêle et appelle au calme. En cette rentrée, les élèves de 6e sont harcelés, notamment sur les réseaux sociaux, sous le hashtag anti-2010, leur année de naissance. Pourquoi tant de haine? Eh bien, pas de véritable raison, simplement les plus grands estiment que les 6e sont trop bébés.
Dans l'affaire des sous-marins australiens, la France n'a pas l'intention de se laisser faire.
Jean-Yves Le Drian dénonçait hier le coup de poignard dans le dos de l'Australie qui a annulé sa commande de 12 sous-marins français pour faire affaire avec les Américains et les Anglais. Un deal à 56 milliards d'euros qui devait assurer des milliers d'emplois pendant des années chez Naval Group. Désormais, Émilie Beaujard, quels sont nos recours ?
Eh bien, le seul levier de la France aujourd'hui réside dans le contrat classé secret défense. Quelles pénalités sont prévues en cas de retard, d'annulation ? Tout est confidentiel, mais la ministre des Armées, Florence Parly, l'affirme. La France ne va pas en rester là.
Il est hors de question de ne pas préserver tous nos intérêts. Nous allons étudier toutes les hypothèses et tous les scénarios. Nous protégerons nos intérêts.
La France pourrait aussi demander des compensations pour cette annulation soudaine et unilatérale, car des ingénieurs français étaient déjà en Australie et des Australiens déjà installés à Cherbourg. Sans parler du fait que ce contrat devait amener du travail pour 50 ans aux industriels français de l'armement. Tout cela a donc un coût qui reste encore à déterminer. La presse australienne parle de 200 à 400 millions d'euros de dédommagement.
Et l'affaire, en tout cas, jette un front entre Paris et Washington à tel point que la France a annulé une cérémonie censée célébrer l'amitié franco-américaine. Le gouvernement caresse les chasseurs dans le sens du poil. Il veut autoriser à nouveau des techniques de chasse traditionnelles d'oiseaux qui sont pourtant illégales au regard du droit européen. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs rappelé cet été, d'où l'exaspération d'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux.
Je suis scandalisé parce qu'il y a un double langage du président de la République qui, à Marseille, nous explique que la France doit être exemplaire en conservation de la biodiversité et qui, dans le même temps, décide de réouvrir les chasses traditionnelles condamnées par la Cour européenne de justice. C'est proprement scandaleux.
Alain Bougrain-Dubourg avec Virginie Garin. Alain Bougrain-Dubourg qui dénonce une manœuvre électoraliste d'Emmanuel Macron alors que les chasseurs s'apprêtent à manifester demain.
Eh bien justement, le gouvernement va-t-il reculer face aux chasseurs? Nous serons avec Thierry Coste qui lui est le conseiller politique des fédérations de chasseurs à 8h20.
Les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital vont toucher en janvier une prime de 100 euros net assortie d'une hausse de salaire d'environ 100 euros brut par mois. Une enveloppe de 40 millions d'euros, dit le ministère de la Santé. Un premier bilan pour les 30 km/h à Paris, c'est une information RTL. Par rapport à septembre 2020, la vitesse moyenne a baissé d'un kilomètre heure seulement et le trafic a diminué de 4%, étude réalisée par Coyote. Et puis 500 créations d'emplois nets chez Renault. Le groupe vient d'entamer des discussions pour un plan sur 3 ans. Il veut faire partir 2000 salariés mais compte en embaucher 2500 dans des compétences plus ciblées. À la clé, la production de 9 nouveaux véhicules d'ici 2025, dont une majorité 100% électrique.
Aux États-Unis, le FBI se retrouve cloué au pilori.
En cause, un vaste scandale d'agression sexuelle commise par l'ancien médecin de l'équipe féminine de gymnastique sur plus de 250 sportives. Il purge actuellement une peine de prison à vie. Hier, les victimes étaient entendues au Sénat et la star de la gym américaine Simone Biles a clairement accusé les enquêteurs de négligence.
How much is a little girl worth?
Quelle est la valeur d'une petite fille? Je suis ici devant vous pour parler et qu'aucune autre petite fille ne soit obligée de subir ce que moi, les autres athlètes autour de cette table et des centaines d'autres ont dû subir. On nous a abandonnés et on mérite qu'on nous explique pourquoi. Sinon, je suis sûre que cela continuera à arriver à d'autres, tous sports olympiques confondus.
On passe au foot avec les bons débuts de Lyon en Ligue Europe. L'OL a battu les Glasgow Rangers 2-0. Les affaires reprennent au grand soulagement du capitaine Oussem Aouar.
Ça fait plaisir parce que c'était un match très intense avec un gros combat. On est satisfait de revenir avec 0 but encaissé et puis aussi les 3 points parce qu'on savait que c'était un match très difficile. Maintenant, on va essayer de bien se reposer avant le grand match face à Paris dimanche.
Et victoire aussi pour Monaco, 1-0 face au Sturm Graz. En revanche, Marseille a été accroché par le Lokomotiv Moscou, match nul 1 partout. À noter en Ligue Europe Conférence, le joli match nul de Rennes, 2 partout face au grand favori Tottenham. Ce soir, ouverture de la 6e journée de Ligue 1 avec le derby de l'Est, Strasbourg-Metz. C'est à suivre dans RTL Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, la face cachée d'Amicalement Vôtre. Aujourd'hui, la série fête ses 50 ans, figurez-vous.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. À tout à l'heure. Dans un instant, François Langlais dit qu'il est de plus en plus difficile de se loger en ville, va-t-il nous expliquer, en particulièrement à Berlin où les prix s'envolent.
RTL Matin, Yves Calvi.
Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Un référendum, François, tout à fait inhabituel, va se dérouler à Berlin.
Oui, le 26 septembre prochain, en même temps que les législatives, les électeurs de la capitale allemande devront se prononcer sur une question révolutionnaire. Faut-il, oui ou non, exproprier les grandes sociétés immobilières pour revendre à bas prix aux Berlinois les logements qu'elles détiennent? Plus de 350 000 personnes ont signé une pétition demandant cette consultation qui s'appuie sur une disposition constitutionnelle inusitée, la réquisition des propriétés pour le bien collectif. Aussi étonnant que ça soit dans une Allemagne qui est pas vraiment communiste.
C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu ça depuis les soviets. Mais qu'est-ce qui a motivé cette initiative?
Le prix des loyers à Berlin qui explose littéralement, plus 43% sur les 5 dernières années, alors que 86% des habitants de la métropole sont locataires après des années de sagesse relative pour le coût des loyers, Berlin a vu ses prix vraiment exploser pour rejoindre ceux des autres capitales du continent. Oui. En particulier sous l'effet des sociétés immobilières qui ont racheté de nombreux appartements pour les rénover, pour les louer, comme Deutsche Wohnen, c'est la cible de cette initiative populaire. Bon, c'est pas un phénomène qui est propre à l'Allemagne, hein. En Europe, les actifs de ces investisseurs privés sont passés entre 2006 et 2021 de 3,5 milliards d'euros à 85 milliards d'euros.
Alors évidemment, les chiffres sont impressionnants. Tout cela amène une question. Comment se fait-il que les gros évincent aussi facilement les petits?
Vous savez, dans toutes les capitales, les prix flambent. Sur un an, le prix de l'immobilier a augmenté en moyenne dans les pays de l'OCDE de plus de 9%. C'est la plus forte hausse depuis 30 ans. Bon, elle s'explique évidemment par le faible niveau des taux d'intérêt qui incite quand même à s'endetter. Et les prix ont atteint de tels niveaux que les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois, ne peuvent plus devenir propriétaires, faute de revenus suffisants. Le marché est donc dominé par les gros investisseurs et puis ceux qui ont une résidence secondaire, ce qui nourrit la colère des classes moyennes exclues des grandes villes. Et c'est pour ça que cette affaire à Berlin doit nous interpeller. Elle montre que la cote d'alerte est atteinte.
Alors, allons au bout de la logique. Comment se passerait cette réquisition des logements ?
Il s'agirait d'une préemption par la puissance publique, la municipalité, à prix juste, dit la Constitution. Bon, c'est assez vague. Oui. Les logements seraient ensuite revendus aux particuliers sur la base de ce fameux prix juste. D'après la loi, il faut obtenir, lors de ce référendum, une majorité de suffrages avec une participation d'au moins 25% des inscrits. Si on en croit les sondages, 50% des Berlinois sont en faveur de la mesure.
Et est-ce que ça peut être utile, en fait, pour élargir l'accès à la propriété, puisque c'est quand même le propos?
Écoutez, temporairement sans doute, mais à terme, ça dissuaderait tout investissement dans la pierre. Bah oui. Si on est sûr d'être spolié par un rachat autoritaire de la ville, un jour ou l'autre. Et la qualité, le confort, l'entretien du parc de logement s'en ressentirait. Un peu comme avec le contrôle des loyers. C'est une solution tout aussi saugrenue que la réquisition, parce que elle finit par restreindre l'offre de logements à louer. En effet, qui va investir dans un logement pour louer moins cher que ça lui coûte à cause du contrôle? Vous savez, un économiste suédois avait dit, il y a longtemps, le contrôle des loyers, c'est le moyen le plus efficace pour détruire une ville avec les bombardements. La seule bonne solution pour stopper la flambée des prix, c'est de construire massivement pour augmenter l'offre de logement.
Voilà, le bon sens a repris le dessus. Merci infiniment François Langlais. On vous retrouve sur RTL.fr pour Langlais Co hors série. À lundi, cher François.
À lundi.
Il est donc 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Jean Le Cam, l'un de nos plus grands navigateurs à 62 ans. Il se projette déjà dans un nouveau Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire et sans escale.
Dans un instant, on met les voiles sur RTL avec Jean Le Cam.
RTL Matin avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h43. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le grand navigateur Jean Le Cam.
Bonjour Jean Le Cam.
Oui, bonjour.
Alors, en cette rentrée, vous publiez pas un, mais deux livres. Hein, pourquoi se priver? Un livre de conversation, Yes We Cam, aux éditions du Seuil. Et puis, Toute voile dehors, chez Solar Edition, dans lequel vous racontez 40 ans de course au large. Et c'est palpitant. On a tous en tête, Jean Le Cam, l'acte héroïque, le sauvetage de Kevin Escoffier que vous avez effectué au large du Cap de Bonne-Espérance, pardon, lors du dernier Vendée Globe. C'était en décembre dernier. Est-ce que 10 mois après, vous vivez encore avec cet épisode-là?
Non, c'est un épisode qui a duré une quinzaine d'heures, donc c'est sûr que Kevin, bon, ça s'est bien fini, donc à partir de là, je dirais qu'on passe à autre chose. C'est vrai que les gens ont beaucoup retenu cet épisode avec Kevin, où il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, mais faut savoir que le bateau était endommagé et j'ai fait quand même les deux tiers de la fin de la course avec un bateau où j'étais pas sûr d'arriver et qui était...
Mais vous dites, j'ai vécu l'insoutenable. C'est quoi ça. L'insoutenable?
L'insoutenable, en fait, c'est une situation qu'on ne maîtrise pas. Le bateau, je savais pas, j'avais fait une réparation qui a cassé, une deuxième réparation, et puis forcément, je pensais m'arrêter en Nouvelle-Zélande, après au Cap Horn, et en fait, je me suis pas arrêté ni l'un ni l'autre, j'ai continué, et puis au final, pour arriver au Sable d'Olonne en quatrième place, donc c'était un miracle quelque part. Et l'insoutenable, c'est...
La mise en danger, c'est on se met en danger.
L'insoutenable, il y a une notion de temps. C'est-à-dire que les choses qui sont insoutenables, c'est dans la durée. Et là, ça a duré beaucoup plus d'un mois, donc c'était très difficile à porter, à supporter. Et donc, on essaye d'y arriver quand même. Et c'est pour ça que l'arrivée de ce dernier Vendée Globe était pour moi vraiment un moment hyper important.
Et Jean Le Cam, quand on est en mer, est-ce qu'il faut une part d'inconscience pour faire ce que vous avez fait? Ou est-ce qu'on est toujours en hyper-vigilance? Ou est-ce que c'est les deux? Comment on se comporte?
Il y a une part de, je dirais, d'aventure. L'aventure, c'est ce qu'on ne connaît pas, sinon c'est pas une aventure. Et c'est pour ça qu'on y va aussi, parce que bon, et c'est sûr que cette année, on a été servi entre l'inconnu qui était la descente de l'Atlantique avec être troisième et quatrième ensuite sur le à 20 jours du départ, après le départ, donc c'était improbable. Parce qu'on avait un ancien bateau, on était face à une meute de nouveaux bateaux et au final, c'était improbable, on va dire.
Mais quand on lit Toute voile dehors, vos 40 ans de course au large, on se dit, mais c'est pas possible. La mer, c'est toujours la galère. C'est-à-dire, même quand vous racontez votre chavirage au Cap Horn, vous vous demandez comment vous organisez votre survie. Donc, l'idée de la mort est présente avec, dans tout ce que vous faites, dans la navigation ?
Non. Moi, je me dis toujours que ça va se passer beaucoup mieux que ce qu'on imagine, parce que l'être humain, il pense toujours au pire. Et au final, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Ce qu'il faut faire attention, c'est les suraccidents. Ça, c'est sûr. Je suis toujours très vigilant là-dessus. Mais sinon, non, on n'est pas du tout avec l'esprit de mourir. On est toujours dans l'esprit, quand on a un problème, c'est comment on va faire pour s'en sortir.
Mmh. Vous avez des nouvelles de Kevin Escoffier ? Est-ce que vous êtes en contact avec lui ?
Ouais, bah, on s'est croisé l'autre jour sur le port à Port-la-Forêt, et donc il va bien, il a l'air en pleine forme. Là, il part avec Banque Populaire sur et Armel Lecléache là sur la prochaine Transat Jacques-Vabre qu'on va suivre de près.
Mmh. Vous, j'ai cru comprendre que vous alliez refaire un Vendée Globe. J'ai lu ça en 2024.
Voilà, c'est ça, on est sur un nouveau...
À 62 ans aujourd'hui, vous dites, allez, je repars.
Oui, parce que je veux faire quelque chose de nouveau, parce que forcément, là, pour le coup, on veut faire un nouveau projet plus accessible, et puis avec des... Voilà, plus simple. Aujourd'hui, on essaie de créer un modèle différent qui soit plus accessible, donc forcément, qui va redonner peut-être l'envie... Comme disait Johnny, l'envie d'avoir envie, il ne faut pas la perdre. Et donc voilà, donc plus accessible, performant et différent.
Jean Le Cam, dans la préface de votre livre, Toute voile dehors, Éric Orsenna, un homme du Finistère comme vous, membre de l'Académie française, dit que vous êtes un demi-dieu. C'est ce que vous ressentez quand vous êtes en mer ?
Ah non, pas du tout.
Mais vous vous sentez puissant tout,
Non, pas du tout. Moi, je fais, je fais ce que j'ai à faire comme je sais le faire. Et après,
vous êtes modeste.
J'essaye d'optimiser. En fait, je suis jamais content. Je suis toujours, je vais jamais assez vite. Donc, il faut toujours que j'optimise la vitesse des bateaux, etc. Donc, c'est vrai que je suis perfectionniste et insatisfait. Donc, ça, c'est vrai, c'est lourd à porter au quotidien.
Alors, vous avez navigué très tôt. Hein, dans ce livre, vous racontez que vous avez eu votre premier canoë à voile à l'âge de 5 ans. En fait, dans la famille Le Cam, on ne pouvait pas échapper au bateau, à la voile. C'était impossible.
J'ai commencé très tôt, ouais, parce que j'ai eu la chance d'être à la Forêt Fouenant, où mes parents avaient un terrain au bord de la plage avec une caravane dessus. Après, ils ont construit une petite maison. Et donc, forcément, on avait un accès à la mer direct.
Et l'école, non, c'était pas... Non.
Bon, à l'école...
C'était plutôt le bateau que
l'école. À un moment, on ne peut pas tout faire. Enfin, j'étais quand même jusqu'au bac. Donc,
Vous avez raté trois fois.
Que j'ai raté trois fois, c'est ça.
Vous le racontez
donc,
dans le livre.
Donc voilà, bon, après, il faut faire des choix.
Pourquoi vous détestez l'école ?
Ah non, je déteste pas l'école, mais je pense que c'est important, l'éducation. Parce que, voilà. Après, avoir le bac qui est un ticket, quelque part, m'obligeait à aller dans une direction qui n'était pas forcément ce que je souhaitais pour mon futur.
Quand vous êtes sur Terre, vous avez le mal de Terre ?
Non.
Vous êtes bien ?
Ah oui,
qu'est-ce
oui.
Qu'est-ce que vous faites ?
Oui, on est toujours content de partir, on est toujours content d'arriver.
Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ici ?
Ah bah là,
comment vous occupez votre temps ?
Ah bah là, on est déjà sur la préparation du nouveau projet, donc c'est beaucoup d'énergie.
Jean Le Cam, on est à 8 mois de l'élection présidentielle. D'abord, ça vous intéresse la politique ?
Pas vraiment, mais bon.
Mais vous qui parcourez les mers et les océans, vous avez, je me dis forcément, une conscience écologique plus forte. Déjà, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui a changé ? Depuis le temps que vous naviguez ?
Ce qui a changé, c'est vrai qu'on voit des catastrophes naturelles en ce moment qui sont assez exceptionnelles, en fait, dans le temps. Donc, je ne sais pas quelle analyse porter là-dessus, mais bon, c'est sûr qu'il faut s'en préoccuper.
Et alors, et si vous étiez président, Jean Le Cam ?
Et si j'étais président, forcément, mon programme politique commence par « Yes, we cam ».
« Yes, we cam », votre slogan.
Derrière,
vous avez déjà un slogan, c'est bien.
Et derrière, je me suis dit... On va reprendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et on va développer, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple.
Mais vous qui êtes sur les mers, vous en manquez de liberté ?
il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'interdictions qu'il n'y en avait par le passé. Donc, il faut quand même avoir un regard là-dessus.
Il y a beaucoup plus d'interdictions, vous sentez moins libre?
Oui, notamment dans toutes les zones interdites qu'on voit de plus en plus, notamment dans la Manche, dans toutes les zones de trafic maritime, tout ça est de plus en plus réglementé. Alors c'est certainement un bien, mais quelque part, c'est aussi une atteinte à la liberté.
Merci beaucoup, Jean Le Cam. Donc votre programme politique Liberté, Égalité, Fraternité, puis Yes We Cam, c'est un de vos livres.
C'est ça.
Et le deuxième, Toute voile dehors, mes 40 ans de course au large. Merci pour tout.
Merci à vous.
Merci pour ce grand bol d'air à tous les deux. Votre entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Dans un instant, Louis Bodin. Les prévisions météo, juste avant l'œil de Philippe Cavrivière qui nous a rejoint dans ce studio. A tout de suite.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Aux grandes félicités, les 7h54. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Et on commence par cette info de terrorisme international. La France s'est félicitée hier de la mort du chef de l'État islamique au Grand Sahara.
Le choix des mots, Yves. La France s'est félicitée, pas réjouie, car nous sommes une nation humaniste. On ne se réjouit pas de la mort d'un homme. Oui, on se réjouit pas, mais ça c'est Raphaël Nivois, notre ingénieur du son, qui a glissé sur la console. Le PDG de Daesh appelait Adnan Abou Walid Al-Sarawi.
Al-Sarawi.
Jamais entendu parler. Pour un numéro 1, ça la fout mal. Alors, il était chef au Grand Sahara. Mais avant, il était au Petit Sahara. Il avait demandé sa mutation. Il dit, bon, j'ai tué 2000 civils, je mérite une promo. Comme quoi, les promos, des fois.
Il avait eu sa promotion.
Alors, l'actualité est riche. Hein. Parlons riche. Santé. Olivier Véran a donc annoncé hier la suspension de 3000 soignants non vaccinés. C'est une info RTL.
Pas une info, c'est un scoop que vous avez obtenu, je dirais même arraché, Yves Calvi. Ne faites pas le modeste, surtout qu'on en parlait avec la direction d'RTL, Esno et Ravanas, Satanas et Diabolo. On trouvait votre début de saison un peu mollasson. Oui. Et là, hier, on a retrouvé Yves, winner.
Vous
voilà, agressif
aimable,
sur l'invité.
Alors, les chiffres du Covid sont bons. Président Macron a évoqué un relâchement des contraintes. La question se pose, le moment de se relâcher est-il arrivé?
Alors, je ne sais pas, mais au feeling, je sens que le relâchement, on va savoir faire, les Français. Alors, on va sûrement avoir des consignes de relâchement du ministère de la Santé. Véran va nous dire, avec son petit teint hautain agacé, qui rappelle toujours à son interlocuteur qu'il est un con. C'est vrai. Et comme ça un peu. Oui. Arrêtez de vous laver les mains, buvez dans le verre des autres, galochez des inconnus et aérez le moins possible. En bref, vivez comme un ado crasseux ou un habitant de Sochaux. Voilà.
Un habitant de Sochaux.
On vient de perdre Sochaux. J'ai des amis là-bas. J'ai vécu là-bas. Alors, ils le savent.
Le contrat du siècle nous passe sous le nez, puisque l'Australie a préféré les sous-marins américains aux sous-marins français. Jean-Yves Le Drian a déclaré, en bon français, on a pris un coup dans le dos.
Et en pas bon français, on s'est fait ken par Joe Biden. 93 ans, on s'est pas méfié, nous.
Non.
Et dire qu'on a fait de la pub hier matin sur cette antenne pour son alcoolo de fils, si on avait su.
Oh bah oui, alors.
Et pourri le bouquin, tiens, on peut le dire maintenant.
Ce sont donc 56 milliards qui s'envolent pour la France. Allez, hop.
Déjà, moi, perdre un billet de 5 euros, j'ai les nerfs pendant 3 jours, mais 56 milliards, c'est un contrat qui avait été signé en 2016. À l'époque, c'était Hollande, oui, le contrat du siècle, Hollande, on aurait dû se méfier. 56 milliards, quoi, c'est la super cagnotte de la loose, quoi. Bonsoir! On vient de perdre l'euro milliard. Qui a perdu l'euro milliard? On va le savoir dans un instant. Notre grand perdant est un Français, c'est Emmanuel de Paris, qui a promis 56 milliards. C'est une belle somme, bravo Emmanuel. Pas trop déçu.
Alors la France devait livrer des sous-marins conventionnels, mais les Américains, eux, ils sont à propulsion nucléaire.
Waouh, ça va, c'est pas des pédalos non plus qu'on livrait. On peut peut-être faire une pub pour les sous-marins français, on n'est pas une pub près à 8h-5. Et si cette année était la bonne année pour changer de sous-marin? Et si vous vous laissiez tenter par un sous-marin français? Peinture métallisée, direction assistée pour éviter les poulpes, radar anti-palourde, radiocassette et vite électrique. Bon, vite électrique, faut éviter de s'en servir sous l'eau. Et surtout, une motorisation française, d'exception. Ouais, okay. Forcément, ils vont signer avec la concurrence.
On le reconnaît, le bruit Made in France. Alors, demain, souvenez en moins les journées du patrimoine. Emmanuel Macron a choisi Marcel Proust. Pour lancer l'événement, il s'est rendu dans la maison de Tante Léonie.
Tante Léonie, Tata Proust. Tata Proust lui donnait des madeleines et il est devenu un des plus grands écrivains français. La tata de Cyril Lignac lui filait des madeleines. Il est devenu un des plus grands pâtissiers français. Ma tata me jetait des madeleines et je suis devenu un petit gros. Comme quoi les destins, vous voyez.
Ah là là.
Je reste ce soir chez Cyril Lignac.
Mais bien entendu, tout en cuisine, 18h40 sur M6.
Regardez, soyez nombreux.
Le rendez-vous est pris avec grand plaisir et à lundi.
Oui.
Côte de bœuf rôti, dis donc.
C'est ça. Oui. Vous voulez venir passer? Vous êtes dans le quartier.
C'est-à-dire que moi, il me fait des marrons glacés.
Ah ouais.
Je vais essayer de trouver un équilibre entre les deux. Louis Baudin, notre météo.
Oui.
Et très clairement automnal maintenant.
Voilà, automnal, mais avec une belle accalmie hein, quand même par rapport aux orages d'hier qui ont été encore très fréquents, très forts dans le sud. Et bien là, ça s'est calmé. Enfin, le sud va retrouver un temps un peu plus calme avec certes des passages nuageux, mais des éclaircies de plus en plus belles en cours d'après-midi. Cet après-midi ou dans les autres régions, notamment dans la moitié nord, on aura également de très belles éclaircies après des brouillards fréquents hein, ce matin. Côté de Saint-Quentin, à Auxerre, à Amiens ou encore à Ville, hein, prévoyez quelques minutes supplémentaires dans vos déplacements parce qu'il y a des brouillards denses. Et puis cet après-midi, donc tout ça va disparaître pour laisser le soleil s'imposer. Alors, il restera quand même quelques nuages en montagne avec un petit risque d'averse seulement en montagne.
Oui.
Et puis en fin de journée, arrivera une perturbation par l'Atlantique avec déjà des nuages et quelques pluies sur la pointe bretonne. Les températures plutôt en baisse hein, ce matin, quelques valeurs inférieures à 10 degrés dans la moitié nord. Et cet après-midi, 21 à 24 degrés, toujours dans cette moitié nord, c'est comme hier à peu près. 23 à 24 degrés dans le sud, jusqu'à 27 degrés du côté de la Méditerranée, 29 même parfois en Corse.
Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous écoutez. Excellente journée, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, ce phénomène qui suscite la consternation générale des collégiens harcelés parce qu'ils sont nés tout simplement en 2010.
Absurde, sans aucun doute, mais vous allez découvrir dans un instant l'ampleur du phénomène. L'inquiétude des parents est celle de l'éducation nationale. Enquête RTL à suivre. L'horreur du Bataclan au cœur du procès des attentats. La bande sonore de l'attaque sera diffusée tout à l'heure à l'audience. Emmanuel Macron cherche-t-il à se mettre les chasseurs dans la poche en vue de la prochaine élection présidentielle? Le président vient d'autoriser certaines techniques de chasse aux oiseaux, pourtant retoquées par le Conseil d'État. Remplacer définitivement le kilo par la livre et les kilomètres par les miles, la Grande-Bretagne post-Brexit sur le point d'abandonner pour de bon le système métrique. Et puis à 48 heures du match PSG Lyon, notre reporter a tenté d'acheter une place, sans doute l'une de ses missions les plus compliquées.
Cyprien Signy et son surf de l'info.
Ne plus jamais faire confiance à un Australien.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ils ont entre 10 et 11 ans et font cette année leur entrée au collège. Leur seul tort, être nés en 2010, ce qui fait de ces jeunes écoliers des cibles. Cibles de moqueries, parfois de harcèlement. Au départ cantonné sur les réseaux sociaux, le phénomène s'est désormais invité dans les cours de récré. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête. Le plus sidérant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a finalement aucun motif particulier qui justifie cet acharnement.
Eh bien la raison est absurde. Simplement parce qu'ils sont nés en 2010. Ils entrent cette année, pour la plupart, en classe de 6e.
Surtout, faire très attention et un peu cacher son téléphone.
Est-ce que tu sais pourquoi on se moque de vous, les 2010?
C'est un peu une date où on nous considère pour des petits.
Les 4 premières fois, je me suis laissée faire parce que, harceler moi, je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire et tout. Et donc ensuite, les autres fois, j'étais plutôt curieuse.
Les plus grands, enfin certains d'entre eux, estiment que ces nouveaux collégiens 11 ans ont des occupations trop immatures.
On n'a pas inventé ça pour être méchant avec eux. On leur jette pas des trucs, voilà.
Et à chaque fois, dans les commentaires, on les insulte, on leur dit 2010, vous êtes petits.
Ils ont pas une attitude de 6e.
Allume le son.
Cette vidéo est celle qui promeut un jeu enfantin. Pop It, c'est comme claquer du papier à bulles. Or, sur les réseaux sociaux, cette occupation n'entraîne plus seulement de simples moqueries, mais parfois des menaces.
Il y a le 2010 extrêmement toxique que vous
circule
connaissez.
Même une vidéo. Un jeune est habillé en militaire, armé, frappant à une porte, est écrit en gros « Moi qui a trouvé l'adresse d'un 2010 ». Beaucoup de parents découvrent le phénomène.
J'en parlerai surtout à l'approviseur pour savoir s'il est au courant.
Il existe un numéro vert contre le harcèlement mis en place par l'Éducation nationale, le 30-20.
Le 30-20, numéro contre le harcèlement à l'école, enquête signée Julien Fautra. L'ampleur du phénomène est telle que Jean-Michel Blanquer a lui-même décidé de réagir dans une vidéo.
Je vois qu'il y a un mouvement qui monte, qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e.
et à embêter les élèves nés en 2010.
Posté hier soir sur les réseaux sociaux, le ministre a de son côté lancé un autre hashtag manière de contre-attaquer, baptisé cette fois « Bienvenue au 2010 ».
RTL, il est 8h03, c'est une journée qui s'annonce une fois encore très éprouvante au procès des attentats du 13 novembre.
Car cet après-midi sera diffusée dans la salle d'audience la bande sonore de l'attaque du Bataclan, un enregistrement retrouvé par les enquêteurs sur un dictaphone. Seules les 30 premières secondes seront diffusées, le reste est insoutenable, mais suffisant pour percevoir très distinctement les tirs de Kalachnikov et le cri d'effroi des premières victimes prises au piège. Une épreuve, on peut l'imaginer, particulièrement douloureuse pour les parties civiles, dont certaines ont décidé de ne pas venir aujourd'hui. Pour les autres, il y aura l'équipe de psychologues présents tous les jours dans la salle, prêts à aider, à soutenir les familles. Carole Damiani en fait partie.
Beaucoup de personnes ont demandé à l'équipe d'être auprès d'eux au moment de la diffusion des sons et des images. Et donc nous avons prévu effectivement d'être véritablement présent auprès d'eux. Être très très vigilant aux réactions émotionnelles de ceux qui seront dans la salle de façon à intervenir dès qu'on détecte des signes d'angoisse ou de quelqu'un qui va être figé par ces images, de façon soit à rester auprès d'eux, soit à les emmener dehors.
Carole Damiani qui dirige l'association Paris Aide aux Victimes, interrogée par Cindy Hubert.
La France ne décolère pas au lendemain de la rupture du contrat par l'Australie de la vente de 12 sous-marins.
Un coup dans le dos insupportable, une décision brutale. Hier, tour à tour, les membres du gouvernement se sont succédés pour pointer la responsabilité des États-Unis qui récupèrent dans l'affaire ce méga contrat pour un montant de 56 milliards d'euros. Alors que Joe Biden était censé incarner le renouveau dans la collaboration entre Paris et Washington, la relation entre nos deux pays tourne à la crise ouverte. L'ambassadeur de France aux États-Unis vient même d'annuler une réception censée célébrer l'amitié franco-américaine. Le champagne va pour l'instant rester au frais, Karine Auten.
Oui, les petits fours ont été renvoyés en cuisine. On n'a pas vu la diplomatie française aussi sévère envers l'administration américaine depuis la guerre en Irak en 2003. Côté français, c'est surtout la manière dont l'allié américain a fait les choses qui met en colère. Il a caché ses discussions avec les Australiens, puis n'a même pas pris la peine de décrocher quand les Français ont tenté de le joindre. Côté américain, on a cherché à apaiser la situation en affirmant que la France restait un partenaire vital dans la zone Indo-Pacifique. Des platitudes qui ont été balayées du revers de la main.
Karine Auten depuis les États-Unis pour RTL. Elisabeth Borne annonce un nouveau plan pour former les chômeurs de longue durée. La ministre du Travail promet de financer les entreprises qui participeront durant plusieurs mois à ces formations. Selon les dernières données officielles, la France compte aujourd'hui un peu plus de 3 millions de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an. Et justement, sur le front de l'emploi, ce coup dur pour les salariés de l'usine qui fabrique les chewing-gums Frident, basée à Bischheim, dans le Bas-Rhin. Le groupe Mars Wrigley, qui détient la marque, a choisi de supprimer 280 postes sur les 350. Raison notamment invoquée, à cause du masque, les chewing-gums se vendraient moins. Difficile à entendre pour ces salariés, Yannick Collant.
Oui, c'est un coup de massue pour les 280 salariés qui ont souvent fait toute leur carrière dans cette usine, à l'image de Christophe.
Ça fait 24 ans que je suis là. Ça me fait un peu les boules, hein, retrouver du travail. Et je trouve qu'ici, ils n'ont pas essayé de garder le site. Et tout est parti, bien sûr, en Russie ou en Pologne, et voilà.
Et pour la direction, la raison vient plutôt de l'effondrement des ventes de chewing-gum en Europe. L'usine ne tournait plus qu'à 28% de ses capacités, intenable pour Maxime Limpens, le directeur du site.
Aujourd'hui, il n'y a aucun site industriel qui est capable d'être viable avec 28% de capacité.
Pour Bruno Cani, le délégué CFDT, il va falloir un plan social particulièrement généreux, car les salariés sont quasiment tous des quinquagénaires, sans formation. Ils auront beaucoup de mal à retrouver du travail.
Certains sont rentrés avec le BEPC et ils ressortiront avec le BEPC. C'est-à-dire que l'entreprise ne les a pas formés à devenir des ouvriers qualifiés. Ils ont appris à fabriquer ou à emballer du chewing-gum et ils ne savent faire que ça. Quoi. C'est terrible. Hein.
Et dans ce secteur déjà marqué par la fermeture de la centrale de Fessenheim, c'est une nouvelle catastrophe industrielle.
Un reportage de Yannick Collant.
Dans un instant, la chasse aux oiseaux est ouverte et c'est Emmanuel Macron qui a donné le signal, de quoi faire hurler les défenseurs de la nature. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Le Conseil d'État avait voulu les interdire et pourtant le gouvernement souhaite à nouveau autoriser certaines méthodes de chasse traditionnelles pour les oiseaux.
Et notamment celles qui consistent à capturer les volatiles avec des filets, des cages ou bien en les étranglant avec des fils accrochés aux branches. Les chasseurs appellent à manifester demain pour défendre ces pratiques et leur passion. Mais les dernières décisions gouvernementales laissent penser qu'ils ont bel et bien le soutien du chef de l'État et c'est l'objet ce matin de notre brigade RTL. Écoutez dans un premier temps la réaction d'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux.
C'est de la démagogie
présidentielle. Ce sont des cadeaux encore faits aux chasseurs. C'est proprement scandaleux.
Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Question simple et directe, Emmanuel Macron est-il sous l'influence des chasseurs ?
Ah, ce qui est sûr, c'est qu'il les écoute et qu'il perd rarement une occasion de les cajoler. Alors vous ne verrez jamais le président avec un fusil de chasse à la main. Par contre, on l'a déjà vu à Chambord, admirer les sangliers abattus par la Fédération des chasseurs. C'est lui aussi qui a divisé par deux le prix du permis de chasse national, de 400 à 200 euros. On peut parler d'un joli cadeau. Et c'est lui aussi, Emmanuel Macron, qui dialogue beaucoup avec l'influent Willy Schren, le patron des chasseurs. Dialogue aussi avec Thierry Coste, lobbyiste pro-chasse, dont la présence à certaines réunions à l'Élysée a fini de convaincre Nicolas Hulot qu'il fallait claquer la porte de son ministère de l'écologie. Alors le sénateur François Patriat, grand ami d'Emmanuel Macron, et lui-même fine gâchette, assume, il dit « On peut tout à fait agir sur le climat et défendre la chasse n'est pas incohérent ». Ça semble tout de même parfois acrobatique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est donc prêt à réautoriser certaines techniques de chasse interdites. Il y a à peine 15 jours, il prononçait un grand discours à Marseille sur la protection des espèces et de la biodiversité.
Le en même temps présidentiel version chasse décrypté ce matin pour nous par William Galibert.
Et bien justement, Thierry Coste, l'influent lobbyiste dont parlait William Galibert à l'instant, sera notre invité dans une petite dizaine de minutes sur RTL.
Un peu moins de 3 semaines après la mise en service du 30 km/h dans les rues de la capitale, RTL est en mesure ce matin de vous donner les premiers résultats. La vitesse moyenne diminue légèrement, disons-le, très légèrement, 1 km/h en moins. La mairie de Paris verra sans doute un effet bénéfique de sa mesure. Pierre Chasseret, éternel défenseur des automobilistes, y voit à l'inverse un fiasco.
On se doutait que ça allait finir comme ça. On savait pertinemment qu'il n'y aurait pas de variation sur les vitesses pratiquées parce que cette vitesse en dessous de 30, eh bien, c'est intenable. Sur la boîte de vitesse, ça se situe quelque part entre le sur-régime de la seconde et le sous-régime de la troisième vitesse. Donc au final, eh bien, c'est une mesure non respectable qui, en revanche, aura permis une chose, c'est de faire énormément flasher les radars de la capitale.
Pierre Chasseret de l'association 30 millions d'automobilistes interrogés par Christophe Bourreau. Quoi qu'il en soit, les villes de Lyon, Bordeaux et Clermont-Ferrand ont décidé elles aussi d'abaisser prochainement la vitesse à 30 km/h.
RTL, il est 8h11, c'est l'une des nombreuses conséquences du Brexit, mais celle-ci, disons-le, est assez ahurissante.
Le gouvernement de Boris Johnson s'apprête en effet à faire une croix définitivement sur le système dit métrique, les grammes, les kilos par exemple, pour remettre à l'honneur le système d'unité impériale, bien anglais jusqu'ici. Les deux cohabitent, Marie Billon.
Aujourd'hui encore, l'once et la livre doivent partager l'étiquette avec le gramme et le kilo chez l'épicier. Les Britanniques sont depuis 21 ans les martyrs du maître, estime le journal The Times, contraint d'utiliser les mesures de Napoléon. Écrivait dans les années 2000 un Boris Johnson qu'on imaginait mettre de rage, non pas bien sûr des mètres cubes, mais bien des galons impériaux de fumée. L'ex-journaliste, désormais Premier ministre, ne veut plus faire deux poids, deux mesures. Le pied et le pouce redeviennent maîtres, les maîtres incontestés de la mesurette. Les commerçants devrait bientôt avoir le droit de n'afficher que le prix à la livre. Par exemple, une livre de patates coûtera tant de livres sterling, bien sûr. Certains risquent de trouver ces changements pesants. Si le gouvernement a une once de jugeote, 28 grammes de bon sens pour être précis, il se souviendra que toute une génération n'a jamais appris à faire ses courses à la sauce impériale. Mais les Brexiteurs n'ont pas forcément peur de mettre les pieds dans le plat.
Joliment dit. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
Alors, recherche billets pour match de foot, désespérément, c'est l'annonce qu'a postée il y a quelques jours notre reporter Pierre Collard.
Mais pas question pour lui de passer à côté du choc PSG-Lyon. Ce sera dimanche soir à 20h45. Le stade affiche quasi complet. Les meilleures places ont déjà été vendues. Ce qui ne vous a pas découragé, Pierre, pour mener cette enquête qui démarre par une recherche sur Internet.
Oui, le site du PSG me redirige vers la plateforme officielle de revente. Rien à moins de 100 euros. Les meilleures places se vendent à 1350 euros. Sur les réseaux sociaux, je trouve Axel, un revendeur, mais c'est déjà trop tard.
Dès que je poste une place, j'ai 5-10 messages dans la foulée.
Pour dimanche, vous avez revendu combien les places que vous aviez ?
130 euros l'unité.
Contre 70 euros la saison dernière en moyenne. Internet, c'est trop cher, je tente un coup de téléphone à la billetterie.
Tous nos conseillers sont actuellement en ligne.
Tant pis, je poursuis l'enquête devant le Parc des Princes où je croise Gérard. Il se contente de quelques achats à la boutique officielle. Il n'a pas trouvé de billets.
J'ai pas de place, je peux pas avoir de place. C'est trop cher pour moi. À la retraite maintenant, vous savez.
Il va regarder le match à la télé. Ce ne sera pas le cas de Imad, beaucoup plus chanceux.
En fait, j'avais mon cousin qui avait acheté les places. Et il me les a donnés, mais les prix sont très très chers.
Et tu sais combien c'était ?
1500.
La place ?
Oui.
Dernier espoir, dimanche, la billetterie ouvrira un peu avant le match. Il restera peut-être quelques dernières places.
1500 euros.
La place.
en tête lancer une cagnotte pour Pierre Collat pour qu'il puisse acheter une place.
C'est de la peine.
Ouais, ou une note de frais. La belle soirée des clubs français en Ligue Europa. Lyon est allé battre hier en Écosse les Glasgow Rangers 2-0, tout comme Monaco vainqueur des Autrichiens du Sturm Graz 1-0. Et puis Marseille qui a dominé toute une partie de la rencontre. Le Lokomotiv Moscou s'est fait rejoindre en fin de match. Score final 1 partout. Voilà pour l'Europa League. Rennes engagé dans la Ligue Europa Conférence. Troisième Coupe d'Europe. Il faut suivre. A fait match nul 2 partout contre Tottenham. Le foot, c'est ce soir sur RTL 20h-23h avec la reprise de la Ligue 1 et le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz, le premier avec du public depuis deux ans.
Le journal nous était proposé par Dominique Tenza et on se retrouve à 9h
tout à l'heure. 1 500 € la place, ça vous...
Oui, ça m'a un petit peu choqué. Vous revenez pour le point de l'actualité à 9h, c'est surtout ça qui me préoccupe, vous l'avez bien compris. Dans un instant, on va surfer sur l'info avec Cyprien Sini.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
8h17, bonne journée à tous. Cher Cyprien, vous surfez-vous avec le contrat du siècle qui vient de nous passer sous le nez?
Non mais je ne m'en remets pas. 56 milliards. Et il avait promis, juré, craché en plus l'Australien en 2016.
L'offre française présente les meilleures capacités pour répondre aux besoins uniques de l'Australie.
Tu parles, ouais.
Les meilleurs, il avait dit. Oui. Et mon François Hollande, le 26 avril 2016, il avait carrément organisé une conférence de presse tellement il était content. Séquence émotion.
J'en ai éprouvé une très grande fierté. C'était tout le savoir-faire français, la main-d'œuvre française, la capacité d'invention, de recherche.
Oui, la France qui se redresse, la France qui gagne, mesdames, messieurs.
12 sous-marins ultra-modernes, une commande record et un succès commercial historique pour la France.
Ah, on était bien, on était heureux. Et François Hollande en visite chez le constructeur de sous-marins qui commençait même à s'enflammer.
On se demande pourquoi on n'en vend pas encore davantage.
Oui, dis donc, pourquoi on n'en vend pas plus? Il est très content. Sauf qu'entre-temps, on ne s'est pas méfié, mais est arrivé lui.
Moi, Joseph Robinette Biden Jr., jure solennellement.
Oui, Joseph Robinette qui passe deux coups de fil à l'Australien et hop, explosé le contrat du siècle, déchiré comme un vulgaire abonnement à Télé 7 jours. Alors, il y aura peut-être des pénalités, mais il nous fait quand même du mal ce Biden depuis qu'il est là. Souvenez-vous, les Suisses qui veulent des avions de chasse fin juin.
6 milliards de francs pour remplacer les FA-18 de l'armée suisse. C'est le plus gros contrat militaire industriel du siècle.
Un contrat du siècle, c'est pour nous les Français, ça. Les Rafales sont là.
Oh oui.
Les Suisses essaient bien quelques modèles concurrents, mais...
Le Rafale favori pour remporter la mise.
Archi favori, le Rafale pour remporter la mise. C'est pas signé, mais c'est du tout cuit. Finger in the nose. Et résultat?
Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui l'acquisition de 36 avions de combat du fabricant américain Lockheed Martin.
Encore les Américains, encore Biden. Bon après, on l'a pas attendu Biden pour voir les contrats du siècle nous filer sous le nez. Les rafales toujours. 2014.
Rencontre de Jean-Yves Le Drian avec son homologue indien. 12 milliards d'euros sont en jeu. Le contrat porte sur 126 rafales.
126 rafales, 12 milliards. Et là aussi, ça sentait bon pour le ministre VRP.
Nous sommes dans une procédure positive, ça évolue plutôt bien. Je suis optimiste. Là, oui. Je dis, je suis plutôt optimiste.
Ah, là, je dis les 126 rafales à l'Inde, c'est tout bon, c'est pour moi. 126, hein. Et donc finalement...
L'Inde qui va acquérir 36 rafales.
Oh, 36! C'est pas 126, mais c'est quand même pas mal, 36. Et puis bon, on va pas se le cacher. Déjà que le monde des affaires, c'est compliqué. Si en plus vous rajoutez la géopolitique au milieu, vous risquez forcément de pas gagner à tous les coups.
Merci beaucoup, cher Cyprien. On se retrouve lundi?
À lundi! Avec plaisir.
Avec plaisir, absolument. Dans un instant, Thierry Coste, le conseiller politique de la Fédération des chasseurs, sera avec nous. On a beaucoup de questions à lui poser.
Bonne journée avec RTL. RTL, revivre Yves Calvi. RTL Matin.
Il est 8h23. Bonjour Thierry Coste.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes conseiller politique de la Fédération des chasseurs et nous sommes à la veille d'une journée de mobilisation des chasseurs partout sur le territoire. Qu'est-ce qui vous pousse à manifester ce samedi ?
La colère. Mais ne nous trompons pas, c'est pas la colère contre le gouvernement, c'est la colère contre le Conseil d'État qui vient de changer sa jurisprudence et qui menace des chasses traditionnelles. Des chasses traditionnelles, c'est des chasses qui se pratiquent avec peu de monde, avec des méthodes ancestrales, mais plutôt sympas. Et on vient les emmerder, comme je dis. Ça fait 25 ans que le Conseil d'État valide tous les ans ces chasses. qui sont toujours attaqués par les ONG anti-chasse. Et cette année, il a changé d'avis. Donc, comme les chasseurs,
on peut donner quelques. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples?
Ce sont des chasses vraiment traditionnelles, avec un filet pour attraper les alouettes, avec une boîte pour attraper les matoles. Donc, c'est vraiment entre guillemets des chasses non rentables, au sens où il faut avoir beaucoup de patience, être tout le temps là pour pouvoir le faire, alors que les mêmes animaux, les mêmes espèces, les alouettes, on peut les chasser, les grives, les merles, on peut les chasser avec un fusil. Et alors, c'est juste 10 fois plus rentable.
Voilà. Où situez-vous la chasse à la glu dans tout ça ?
Ah, la chasse à la glu, c'est aussi une chasse traditionnelle, mais celle-ci, le Conseil d'État l'a sanctionnée il y a un an, pour des raisons qui sont un peu différentes, parce qu'effectivement, ils argumentent le fait que on peut attraper des oiseaux différents. Nous, on dit non, mais eux, on dit oui. Mais par contre, ils ont réglé le problème. Pour les chasses, pour les arrêtés qui viennent d'être supprimés, ils ont juste demandé qu'on les justifie mieux, et le gouvernement, comme le monde de la chasse, se sont alliés pour qu'on les justifie bien, et c'est pour ça qu'il y a une consultation publique.
Thierry Coste, excusez-moi, mais s'il y a un pays où l'on comprend que la chasse peut vivre, a une histoire, c'est bien la France. Mais la chasse au filet, les étranglements, la glu, pardonnez-moi, mais comment peut-on encore justifier ça aujourd'hui en parlant, en se cachant derrière la notion de chasse traditionnelle? Oui, en effet, les sociétés évoluent. On comprend la passion des chasseurs, mais il faut que les chasseurs comprennent aussi que la société évolue et que la sensibilité publique aujourd'hui, par exemple celle de nos enfants, est totalement heurtée par ce genre de chasse.
Mais je suis entièrement d'accord. Il y a juste un problème, c'est qu'à chaque fois qu'on explique une chasse sur la glu, c'est une capture d'oiseaux vivants. On l'a très mal expliqué, on a été très mauvais. Mais à chaque fois qu'on explique une chasse, bien sûr on tue. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on tue, donc là je comprends, ils n'aiment pas la chasse parce qu'on tue des animaux.
On ne vous parle pas de la mort, on vous parle des conditions de la mort, et c'est tout à fait différent.
De la mort, pour les chasses traditionnelles qui font l'objet des manifestations à Mont-de-Marsan, à Amiens, à Caen ou à Fort-Calquier, il n'y a pas de difficulté. On attrape les animaux vivants, on les tue tout à fait proprement, et l'affaire, on sait, pour les manger, donc c'est pas ni la glu ni autre chose, et les chasseurs sont présents, ils sont physiquement présents, mais ça représente presque rien. On tue beaucoup d'animaux parce que effectivement on gère bien, et il y a de plus en plus de faune sauvage, donc ok, mais assumons quand même le fait que parfois on a une tradition, elle n'est pas choquante. On peut l'expliquer et il faut les respecter. Le Conseil d'État l'a toujours reconnu. Cette fois-ci.
J'entends bien que vous êtes un très bon défenseur des chasseurs, mais que vous-même, ça vous choque un petit peu. Alors, pardonnez-moi, combien de personnes seront présentes pour manifester ce week-end ?
Alors ça, je n'en sais rien, mais ce sont des manifestations régionales. Il y en a deux dans le sud-ouest, parce que c'est le sud-ouest et le sud-est qui sont directement concernés. Donc il y aura quelques dizaines de milliers de chasseurs, mais il y a aussi beaucoup de ruraux. C'est quand même aussi, et on le verra à Mont-de-Marsan où je serai demain, c'est aussi une espèce de ras-le-bol du chasse-bashing, de l'agri-bashing, du campagnard-bashing. Les ruraux, on les prend pour des ploucs, ou pour des gens justement qui pratiquent des méthodes arriérées ou des méthodes dangereuses, si on parle des agriculteurs, etc. Faut arrêter avec ça.
Excusez-moi, ruraux et chasseurs, c'est un amalgame ?
Ah non, c'est pas...
On peut être rural sans être chasseur, et on peut être chasseur sans être rural. Moi, je peux dire que j'en connais dans les deux cas. Hein.
Bien sûr, mais soyons honnêtes quand même. La plupart des chasseurs chassent à moins de 10 km de chez eux, donc ce sont plutôt des ruraux, mais ils sont soutenus par d'autres qui considèrent qu'effectivement, notamment le Conseil d'État, on a des réglementations qui étouffent une forme de liberté qui est encadrée. On ne fait rien sans un contrôle très strict. On est le seul pays à avoir une police de l'environnement, une police de la chasse, avec 10 ou 15 personnes par département. Donc arrêtons de penser que la chasse, c'est on fait n'importe quoi. Au contraire, on gère plutôt bien, mais de temps en temps, il faut nous foutre la paix.
Mais je vous dis pas que vous faites n'importe quoi, je vous fais juste remarquer que nos chasseurs sont plutôt, en tout cas, et ça c'est très frappant en ce moment, câliné par le président de la République. Il a besoin de vos voix à l'élection présidentielle ?
Alors,
on a baissé le prix du permis, enfin en tout cas de l'examen d'aptitude, on remet en cause certaines interdictions qui devaient avoir lieu. Visiblement, je pense que le président de la République trouve que les chasseurs sont des amis.
Je pense que le président de la République a fait un choix qui, s'il était électoral, serait un peu en contradiction avec ce que racontent tous les gens qui disent « mais on est des urbains, le vote il est urbain et les ruraux comptent pas dans le vote ». Non, je pense que le président de la République, depuis le début, a compris que la chasse, c'était un mode de vie en milieu rural et que c'était respectable à partir du moment où il y avait un encadrement et que c'était contrôlé. Le président de la République, Emmanuel Macron, est le seul depuis 40 ans, à avoir un vrai engagement sur la chasse, mais en même temps, en ayant exigé des réformes sur la biodiversité, sur le fait qu'il y ait une police beaucoup plus forte, que les chasseurs, lorsqu'ils acceptent de participer à une gouvernance, ils ne soient pas majoritaires. Donc oui, bien sûr, il y a des sujets sur lesquels le président est très attentif. Il l'a toujours été, la preuve, c'est qu'au niveau des chasses traditionnelles, c'est lui qui a fait l'arbitrage.
Il y a un lobby de la chasse en France ?
Comme dirait le président de la République lorsqu'il est interrogé sur le sujet, oui, si à partir du moment où on défend des activités qui peuvent être menacées, ou non d'ailleurs, mais qu'on défend des activités, on peut appeler ça un lobby, mais les ONG sont un lobby, les syndicats sont un lobby. Donc oui, mais en tout cas, nous, on parle à tout le monde, on a un dialogue permanent avec l'État, avec les partis politiques, et ce qu'on veut, c'est plutôt qu'on nous foute la paix, parce qu'on gère bien la nature, et en termes de biodiversité, on plante des centaines de kilomètres de haies tous les ans. Ça sert à tout le monde, pas juste aux oiseaux ou aux mammifères qu'on chasse.
Oui, non mais les haies, c'est très bien. Ça, personne ne vous reprochera de réinstaller des haies. La nature en a besoin. Il y a juste, je dirais, des abus. J'en reviens à ma première question, en fait, Thierry Coste. En 2021, des filets, des cages, voire de la glu pour capturer des animaux. Est-ce que ça vous paraît normal ?
Oui. Alors là, totalement normal. Ce sont des traditions. Elles ne sont pas pratiquées par 1 million de chasseurs. Elles sont pratiquées par quelques dizaines de milliers. Et c'est très contrôlé, très encadré. Alors, c'est quoi le problème ? Moi, j'ai du mal à le comprendre. On peut discuter de l'élevage, de savoir où on va mettre les vaches ou les moutons. Je descends d'une estive. Pour vous répondre, je suis descendu d'une estive en Ariège. On peut imposer des contraintes terribles aux éleveurs parce que il y a des randonneurs, parce que les patous peuvent être dangereux. Il faut arrêter tout ça. Il faut laisser les ruraux, les agriculteurs, les chasseurs se débrouiller. On respecte des règles. On n'est pas dans une jungle. Donc, oui, il y a des traditions. Eh ben, elles sont ce qu'elles sont. Il faut les comprendre. Et par contre, on a un boulot à faire. C'est de bien les expliquer ce que l'on a pas souvent fait correctement.
Vous savez qu'il y a beaucoup de traditions qui ont évolué, et heureusement. Mais en tout cas, il était important qu'on puisse vous entendre, vous aussi, ce matin, sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup, Thierry Coste. Vous êtes conseiller politique de la Fédération des chasseurs. Il est 8h31.
On va chasser le beau temps, nous, parce que
Puis en plus, c'est ce week-end l'ouverture de la chasse.
Exactement. Je ne suis pas sûr qu'on gagne côté soleil, effectivement. Alors même si aujourd'hui, on l'a dit, ça va être une belle journée d'accalmie, moins d'averses, moins d'orages dans le sud. Et ça va faire du bien, notamment près de la Méditerranée. Il y en a encore eu hier. Donc aujourd'hui, petite accalmie avec un temps sec et ensoleillé. Quelques nuages quand même sur les reliefs, avec encore un petit risque d'averse. Et puis arrivera une perturbation par l'ouest, elle donnera déjà des nuages et de la pluie sur la pointe bretonne avant la fin de la journée. C'est elle que l'on va surveiller demain parce que elle va progresser dans la moitié ouest, mais seulement dans l'ouest. Ce qui veut dire que demain, dégradation des côtes de la Manche jusqu'aux Pyrénées, Bretagne, en passant également par le Limousin, ça n'ira pas plus loin. Ce qui veut dire que dans la moitié est, demain, conservant un temps sec et ensoleillé, ça concernera la région parisienne, le Nord-Pas-de-Calais, où les pluies n'arriveront qu'en toute fin de journée. Donc ce sera plutôt agréable avec des températures à peu près de saison. Attention dans la nuit de samedi à dimanche à un risque d'averses orageuses, encore une fois, notamment sur le sud du Massif central, peut-être également près de la Méditerranée. Et puis à partir de dimanche, et bien de nouveau, belle amélioration dans le sud, mais risque d'averses dans la moitié nord. Là, faut pas se faire d'illusions, ça alternera nuages, éclaircies, averses. Et puis en début de semaine, eh bien les pluies vont plutôt se concentrer sur la moitié sud. Nouvelle amélioration dans la moitié nord. Et puis en milieu de semaine, là, tout le monde d'accord, on devrait connaître un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Avant peut-être le retour des perturbations en fin de semaine prochaine,
comme
mais ça c'est trop loin.
C'est l'automne, on va ressortir notre manteau de pluie, n'est-ce pas ?
Et ça va se faire progressivement, oui, vous avez vu, ça alterne, et puis petit à petit les températures vont baisser.
C'est pas mal les quatre saisons en fait, vous savez.
Moi je préfère les quatre saisons.
Oui, et puis la France est un pays au climat tempéré, ne l'oublions jamais.
Jamais.
Première leçon de géographie.
C'est vrai.
À l'école primaire.
À mi-chemin entre l'équateur et le pôle.
Formidable, merci Louis Baudin pour toutes ces informations. Je vous souhaite un très bon week-end.
Bon week-end.
Dans un instant, RTL autour du monde, direction la Russie.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
RTL autour du monde.
Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir, les Russes voteront pour élire leur nouveau Parlement, des législatives qui ont déjà suscité les critiques. Et pour en parler, nous rejoignons notre correspondant en Russie, Félix Grasso. Bonjour Félix.
Bonjour.
Alors même que le vote n'a pas commencé, on évoque déjà des irrégularités. Y en a-t-il qui se distinguent particulièrement ?
Alors la panne de la mauvaise foi, hein, pour le dire comme ça, a été dégotée à Saint-Pétersbourg. Boris Vichnievski, candidat du parti libéral d'opposition Yabloko, a été stupéfait lorsqu'il a vu la maquette d'une affiche électorale. Trois Boris Vichnievski y figuraient côte à côte. Alors au-delà de l'homonymie, la ressemblance est flagrante. Les trois candidats ont le même type de calvitie, la même couleur de cheveux, le même type de barbe poivre et sel. Un subterfuge pour déboussoler les électeurs, s'est insurgé l'opposant, d'autant plus qu'il a reconnu l'un des deux autres. Il s'agirait de Viktor Bykov, membre du parti au pouvoir Russie Unie. Une irrégularité grossière que la commission électorale a dénoncée, même si changer de nom n'est pas illégal. Mais la population n'est pas dupe. Certains estiment que tout est joué d'avance et qu'il ne sert à rien d'aller voter. D'autres se disent qu'il faut quand même y aller pour réduire l'emprise sur le Parlement de Russie Unie qui dispose de plus de 2/3 des sièges.
Alors la quasi-totalité des médias indépendants ont été classés agents de l'étranger. Une appellation très péjorative qui remonte au temps de l'Union soviétique, en fait, et qui complique leurs relations avec de potentiels annonceurs. Le pouvoir est-il fébrile? Et si oui, pourquoi?
Alors oui, hein, c'est le cas, comme l'explique Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou.
De façon générale, le pouvoir a cherché à, je dirais, minimiser les risques en amont, hein, comme toujours, mais là, avec un soin encore plus particulier et plus offensif, parce que c'est quelque part une fin de cycle ou un début de nouveau cycle.
Alors, au-delà des législatives proprement dites, hein, se profile la succession de Vladimir Poutine, dont personne ne sait encore, bien évidemment, quand il quittera le pouvoir. Les autorités cherchent donc, de manière maladroite et brutale, à limiter les sources potentielles de turbulences et garantir la stabilité.
Des troubles importants pourraient-ils réellement se produire ?
Alors, pas dans l'immédiat, hein, mais le pouvoir se souvient des manifestations de l'été 2020 en Biélorussie et il veut éviter qu'une élection contestée génère de tels événements en Russie. C'est ainsi que la politologue Yekaterina Shulman explique les pressions exercées par le pouvoir sur les candidats et les médias de l'opposition.
Des troubles importants, donc, a priori, ne sont pas prévus. Mais quel intérêt si ces élections ne sont ni justes ni honnêtes, pour reprendre le propos de cette politologue qu'on vient d'entendre ?
Alors, écoutez, dans quelle mesure ces élections sont utiles? Elles vont permettre de voir les équilibres qui règnent actuellement au Parlement russe, de voir comment ils vont évoluer. Et c'est la seule question, en fait, à laquelle ces élections permettront de répondre.
Merci beaucoup, Félix Grasso, correspondant d'RTL en Russie.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
On vous retrouve, Isabelle Choquet, à 8h38 pour notre face cachée de la Une. Et on vous retrouve aussi pour fêter un anniversaire, les 50 ans d'Amicalement Vôtre.
Oui, une série qui a totalement sombré dans l'oubli, Yves, aux États-Unis, partout ailleurs, partout, sauf en France, nous rappelle le JDD. Et en France, dès qu'on parle d'Amicalement Vôtre, on a la bande-son dans la tête.
Ah, c'est les années 70, il faut que ça mette un petit peu de temps avant d'arriver.
Le thème musical de John Barry, les photos de jeunesse des deux héros en parallèle sur un écran divisé. Le vendredi 17 septembre 1971 exactement, les téléspectateurs britanniques découvrent ce duo inédit, Roger Moore et Tony Curtis dans The Persuaders. Les Français attendront l'année suivante pour faire connaissance avec Lord Brett Sinclair et Danny Wilde sur la seconde chaîne de l'ORTF. Première rencontre, ils se chicanent sur la composition d'un cocktail, une olive pour le British, deux pour le Yankee, et ça dégénère.
Écoutez, vieux, surtout ne m'appelez pas vieux. On pourrait penser que c'est une marque d'amitié.
Vous voulez recevoir une baffe?
Non. Et vous?
Oh, je pense que vous pourrez pas me toucher, vous. Alors, à l'intérieur ou à l'extérieur?
C'est à moi de choisir.
Oui.
Eh bien, à l'intérieur, dehors, il n'y a pas l'air conditionné. Non!
Je vous avais prévenu, ça dégénère. Hein. Amicalement Vôtre sera rediffusé sur TF1, Antenne 2, La 5 et depuis près de 30 ans sur les chaînes du groupe M6. Du coup, on a l'impression que la série a duré des années et en fait, c'est assez incroyable, il n'y a eu qu'une seule saison de 24 épisodes. Une seule saison parce qu'aux États-Unis, eh ben, c'est un bide. The Persuaders se présentait pourtant comme une suite non avouée de la série Le Saint, déjà avec Roger Moore. On avait testé dans un épisode l'idée des deux milliardaires qui trompent leur oisiveté en jouant les redresseurs de tort, ça fonctionnait bien. Pour incarner l'américain, on a pensé d'abord à Rock Hudson qui a refusé, puis à Glenn Ford qui n'était pas disponible. Tony Curtis, lui, a accepté. Son duo avec Moore fonctionne à merveille. Généralement, ça part en impro, c'est assez savoureux. The Persuaders est alors Alors, la série britannique la plus chère de son époque, une super production donc, sauf qu'elle se retrouve le samedi soir sur ABC face à Mission Impossible. Ah. Et là, c'est le drame, un naufrage d'audience. En plus, Roger Moore décroche le rôle de James Bond. Les producteurs en profitent pour jeter l'éponge. Et depuis, eh bien, la France fait figure d'exception. Car chez nous, un demi-siècle plus tard, on se régale encore avec cette unique saison. Peut-être parce qu'on s'y sent un peu comme à la maison. Plusieurs épisodes ont été tournés à Paris ou sur la Côte d'Azur. L'épisode 2 se déroule même pendant le Festival de Cannes. Et puis, il y a le doublage. Claude Bertrand pour Lord Sinclair et surtout Michel Roux pour Danny Wilde. Michel Roux qui prenait souvent des libertés avec les dialogues.
Ah, il arrive. Oh, il est éblouissant. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Votre carrosse vous attend. Oh, regardez, il a même un chapeau. Il n'est pas magnifique?
Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou.
Sans surprise, c'est en France qu'est née l'idée d'adapter Amicalement Vôtre dans les années 90 et 2000. On a imaginé Édouard Baird face à Michael Youn ou Jamel Debbouze. Yann Moix rêvait de diriger Benoît Poulvorde et Franck Dubosc. Projet sans lendemain, tout comme les rumeurs sur un tandem George Clooney-Hugh Grant. À la télé, les remakes ont fait pchit, reste l'original inimitable.
J'attendais la dernière petite note. Merci Isabelle Choquet. On se retrouve lundi ?
On se retrouve lundi, bon
c'est
week-end.
C'est une excellente nouvelle.
RTL, vous êtes comme ça.
Et vous êtes comme ça s'intéresse aujourd'hui à un passionné bien connu dans le petit monde des amateurs de force basque. Ces disciplines où des grands gaillards coupent des troncs, poussent des charrettes en bois ou soulèvent encore d'énormes bidons de lait et des pierres de 200 kilos. Lui a choisi le tir à la corde et son rêve serait de voir cette discipline inscrite dans les épreuves des Jeux Olympiques, comme ce fut le cas d'ailleurs il y a très longtemps. Bonjour Denis Grandjou.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez donc croisé le chemin de cet homme à l'accent basque, enfin forcément.
Oui, Gabi de son prénom, Etchar de son nom, il faut bien appuyer sur le R, comme à Asparin, le village où il est né, dans la ferme familiale au Pays Basque et où il a passé toute son enfance. C'est ici qu'il a découvert le tir à la corde.
J'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je tirais à la corde. Alors, je travaillais à la ferme avec des chevaux. Mon père, qui était à la force de l'âge, défiait ma tante et moi-même. Ensuite, est arrivé comment j'ai grandi. Donc, je me suis mis, moi, contre ma tante et ma sœur. Et on faisait ça à la fin du repas. C'était tout naturel. On tirait la corde. Ça a été pour moi une révélation. Et je me suis mis et j'ai monté une équipe de tir à la corde au départ. C'est un sport où on gagne en reculant. J'en connais pas d'autres où on gagne en reculant. On tire en regardant l'autre, l'adversaire.
Toujours.
Toujours. En bas, ça veut dire chocatila.
Un sport qui remonte à la nuit des temps.
En 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a 4000, plus de 4000 ans, il y avait des compétitions de tir à la corde en Égypte. Et il y a une fresque à Saqqara qui indique des compétitions de tir à la corde.
Aujourd'hui, le tir à la corde se pratique dans près de 80 pays. D'ailleurs, dans une quinzaine de jours, l'Espagne organisera les championnats du monde. Mais cette discipline, qui fut olympique au début du XXe siècle, n'est pas encore inscrite au programme par le CIO pour les prochaines éditions.
Le rêve olympique, je l'ai toujours, mais la réalité olympique, je pense que je ne l'aurai pas.
Alors, en attendant que les hautes instances du Comité international olympique statuent sur le sort du tir à la corde, Gabi a une idée.
En 2023, les Basques défient la France. Par exemple, la Bretagne ferait le tir à la corde et le lancer de ballon de paille. Du côté de Marseille, ils feraient lever des poids. Parce qu'ils se disent très costauds, Marseille. Dans l'Allier, ils feraient du tir à la corde aussi. Ailleurs, ils feraient la scie, en Auvergne. Les bûcherons auvergnats sont très forts. Force basque, les Basques défient la France.
Et attention, parce que Gabi est prêt à défier la rédaction de RTL.
À 7 contre nous 4.
7 personnes de RTL, ouais. Contre 4 Basques.
Contre 4 Basques.
Désolé, Gabi, mais on devrait gagner. Normalement, hein. Enfin, j'en connais quelques-uns.
La première partie à Neuilly, et la deuxième au Pays Basque. Parce qu'on va terminer par un bon gueuleton.
Oh, alors là, écoutez, on se prépare. Hein, dans mon équipe, il y a Laurent Gérard, Cyril Lignac et puis surtout Isabelle Morini-Bosque. Vous savez, elle est un peu sèche, mais elle a beaucoup de volonté. Merci beaucoup, Denis Grandjou, pour cette rencontre basque fort sympathique. On va se préparer, Isabelle. Hein,
oui, mais je me muscle.
Pour affronter les Basques. Oui,
bah,
c'est pour ça, je
excellente
sais.
Excellente sangle abdominale.
Ben bah, voilà, les Basques n'ont qu'à bien se tenir. Dans un instant, Laurent Gérard, c'est le reste de l'équipe.
RTL Matin, Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi. Bon. Google vient de publier la liste des 10 questions les plus posées sur Internet. Et surprise, la question la plus posée est comment faire un nœud de cravate.
Je crois que c'est de ma faute.
Tiens, bonjour François Hollande. Comment ça, c'est de votre faute?
Pendant 5 ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers.
C'est pas faux. C'est vous tout seul qui avez placé cette question en tête des questions les plus posées sur Internet?
Ah non, j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Mmh. Et résultat ?
Résultat, tout est allé de travers, même le nœud.
Parmi les questions les plus posées sur Internet également, comment tomber enceinte ?
Tomber enceinte, comment ça marche ?
Ah, bonjour Michel Chevalet.
Pour répondre à cette question, je vais vous amener une maquette.
Excusez-moi Michel, mais je ne vois pas une maquette, je vois de la nourriture.
C'est pareil, prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule.
Oui, oui, bon, bah, je crois qu'on a compris.
La procréation, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de mayonnaise.
Non, c'est bon. Merci Michel, ça suffit. La septième question la plus posée sur Internet est « Comment faire les pancakes ?»
Je suis tellement content.
Céline Dion, cette question vous concerne.
Comme tu le sais, dans ma belle province, on adore les pancakes. Là.
Oui.
Et depuis quelques mois, je gourdine du pancake matin, midi et soir. C'est affreux.
Mais pour qui préparez-vous tous ces pancakes ?
C'est pour mon pépé.
Ah !
C'est bon. Mon jeune danseur vigoureux, mon Pépé Munoz.
Et Pépé est friand de pancakes.
Ah, c'est que ça mange un grand guerrier comme ça. T'as donc pas vu la bête?
Ah,
taillé
si,
comme
vu.
Un bûcheron.
Ah oui,
et il se dépense avec ça à faire ses cabrioles sur scène.
Ça le met en appétit, forcément.
Ah, y a pas que ça qui met en appétit, ma pauvre jeune, j'en peux plus. Bon matin aussitôt qu'il me voit au fourneau en robe de chambrée à cuitocher le pancake, là. Ça lui fait monter à sève au Pépé. Et il devient collant comme du sirop d'érable. Ah, on peut plus, là, ça continue. C'est pour la recette du pancake que je vais demander à Google. C'est la recette du bromure.
Hey, François Bayrou, qu'est-ce que vous faites là ?
Ah, quelle drôle de question.
Ah,
comme chaque jour, je fais le tour des radios et des chaînes d'infos.
Ah oui.
Pour commenter l'actualité, pardi.
Ah oui, pardi.
Posez-moi une question et j'éclairerai vos auditeurs de mes lumières qui sortent de ma grosse tête toute rouge.
Je veux bien, mais une question à quel sujet ?
Peu importe.
Oui.
J'ai un avis sur tout.
D'accord.
Vous pouvez me questionner sur Harvey Weinstein, Richard Ferrand ou la Saint-Luc.
La Saint-Luc.
Absolument. Le 18 octobre, c'est la Saint-Luc.
Ah, ben, oui.
Et à la Saint-Luc, la pluie du vallon fait de la neige sur le mont.
En effet, vous êtes bien documenté. Merci, monsieur Bayrou, de nous avoir éclairé.
Attendez, je n'ai pas fini.
Ah.
Laissez-moi terminer mon raisonnement.
Oui.
Le 18 octobre, c'est également la journée mondiale de la ménopause.
Ah, ben dis donc.
Le saviez-vous ? 50% des femmes prennent environ 5 kilos pendant la ménopause.
D'accord.
Mais cette prise de poids n'est pas une fatalité. Voici mes 5 astuces santé bien-être pour passer le cap sans prendre un gramme. Astuce numéro 1.
Merci, c'est gentil, mais on n'a pas vraiment le temps, monsieur Bayrou.
Ah bon, c'est bien dommage,
ah oui.
Parce que le 18 octobre, c'est également la fête de la garbure à peau.
Ah.
Et j'aurais aimé donner la recette exacte de cette soupe aux choux bigourdane.
Mm-hmm.
Faites d'abord tremper les haricots, puis faire blanchir.
Oui, alors une prochaine fois, c'est promis. Je crois que Pascal Praud voudrait profiter du micro pour poser quelques questions à nos auditeurs. Allez-y Pascal.
Bonjour à tous et à toutes. Voici les questions du jour au 3210. Le logo des JO 2024, vous l'avez vu ?
Oh oui.
Bien sûr.
D'après vous, que représente-t-il ? Une tache, une femme, un pubis poilu ou la flamme du Rassemblement National ?
Un peu les trois, non ?
Ou un peu les trois, merci Yves. Je pose la question au 3210.
Très bien, très très bien, c'est noté Pascal.
Question suivante, si le logo dit JO est bien une femme, pourquoi les hommes, les trans et les sans opinion sont-ils exclus ? Et pour les Jeux Paralympiques, faudra-t-il rajouter deux roues de chaque côté ? Je pose la question au 3210.
Parfait, alors encore un joli sommaire pour les auditeurs, ont la parole tout à l'heure.
Et surtout, nous répondrons aussi à la question d'Éric Zemmour.
Oui.
Pensez-vous, comme Éric Zemmour, qu'en 2024, la Marianne de la médaille sera voilée, ainsi que toutes les athlètes, et que les épreuves d'équitation seront remplacées par des courses de chameaux ? J'attends toutes vos réponses au 3210.
On a beaucoup parlé de Johnny cette semaine, inauguration d'une esplanade à son nom à Paris, ainsi qu'un grand concert hommage à Bercy. On a donc aussi beaucoup vu Laetitia Boudou à l'idée, l'occasion de retrouver notre compilation « Johnny chante les Boudous ».
La boue
Dou, 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 prends l'héritage et passe-moi le blé. La boudou, dou, dou, prends l'héritage et passe-moi le blé. Oui, la boudou.
Ainsi qu'un magnifique hommage à la ville de Saint-Tropez.
Boudou, 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 Saint-Tropez. Boudou, 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 passe-moi le blé. Boudou, 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 Saint-Tropez. Et boudou, 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 passe-moi le blé.
Mais ce futur album de Johnny contient également une très belle reprise de Sacha Distel.
Des pommes, des poires, et les sous-boudou-boudou-ah. Et sous-boudou-boudou-ah. Et sous-boudou-boudou.
Ainsi qu'une version revisitée du fameux tube de la chanteuse Bibi.
Doucement, en exprimant des sentiments pour l'argent. Bout doucement, le testament pour grand-maman.
Johnny, l'album posthume, bientôt dans tous les bacs et sur toutes les ondes. Et en bonus track, la chanson phare de l'album, enregistrée à Nashville.
Oh, tiens, voilà du boudou, voilà du boudou, voilà du boudou.
Tiens, voilà du boudou, l'album événement de Johnny, bientôt dans les bacs et à l'Amnésia au Cap d'Agde avec RTL.
Elle pique des mille.
Non mais c'est pas possible. Alors je veux la compile complète, je vais l'offrir à Cyril Lignac qui est déjà avec nous. Et puis éventuellement on en offrira une à Florent Pagny qui est notre invité exceptionnel dans Laissez-vous tenter dans quelques instants, puisqu'il va venir nous présenter son dernier album, le 20e, L'Avenir. Bon Cyril, dans un instant il est question de marron glacé.
Eh oui.
Hein, on va voir ça de très près. Boudou 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 Saint-Tropez.
RTL Matin, Yves Calvi.
8h57, cher Cyril Lignac, Céline, elle habite à Cholet et elle aimerait faire des marrons glacés. Mais moi, je vais vous dire, je la comprends. Elle dit comment choisir les marrons, faut-il une sorte spéciale et surtout comment les préparer. Nous vous écoutons.
Alors, déjà, le marron qui se mange, c'est une version un peu modifiée de la châtaigne sauvage. C'est-à-dire que le marron comestible est issu d'une variété de châtaignier qui a été greffée pour la culture. Ces bogues, elles, ne contiennent qu'un seul fruit, alors que quand on cherche des châtaignes, dans la nature, on trouve toujours des bogues avec à l'intérieur deux petites châtaignes. Donc c'est déjà, j'ai envie de dire, une grosse châtaigne.
Oui.
Donc on les épluche, on les fait tremper. Donc on les fait tremper dans de l'eau. Ensuite on les plonge dans une casserole d'eau et on porte à ébullition pour enlever la petite membrane qu'il y a autour. On les pèle, on cuit 15 minutes à petit feu et on les fait refroidir. Dans une belle cocotte, on prend 75 centilitres d'eau, 750 grammes de sucre, on le chauffe tout doucement. Lorsque le sucre est transparent, on augmente un petit peu le feu. Quand le sirop bout, j'ajoute de la vanille. Alors aujourd'hui, on le fait avec de la vanille, mais on peut aussi mettre du rhum.
On
peut le parfumer un peu.
Voir les deux, si je puis me permettre.
Voir les deux, mais ça c'est délicieux. Mm-hmm. Vanille et rhum. Et ensuite, on plonge les marrons dans un petit panier. On les plonge à l'intérieur. On les cuit une minute.
Ah,
à bouillon.
D'accord.
Et ensuite, on stoppe la cuisson et on les laisse tranquillement pendant 24 heures. Le lendemain, parce qu'en fait, le marron, il a comme c'est dur, c'est comme une châtaigne.
Oui, il a besoin de s'imprégner.
Exactement. Donc, la châtaigne, quand on veut manger des châtaignes à la maison, soit on les met au feu, c'est-à-dire au barbecue,
j'adore ça,
dans une poêle trouée au fond de la cheminée, et on enlève la peau, sauf que la châtaigne est dure et ferme. Or, un marron glacé, c'est une confiserie. Mmh. Donc, on a d'abord besoin de le cuire dans de l'eau, pour le cuire comme une châtaigne qu'on mangerait traditionnellement, et ensuite de le confire. Donc, pour la confiserie, on est obligé de le laisser donc 24 heures posé. Et ensuite, le lendemain, on réégoutte les marrons, on les replonge 3 minutes, et on fait ça deux fois d'affilée. C'est-à-dire deux jours. C'est-à-dire comme ça, on a le sucre qui rentre et le moelleux.
Et qui imprègne.
Exactement. Et ensuite, on les laisse à l'air libre. Et alors, soit on peut les manger comme ça, soit on fait comme on les trouve dans les pâtisseries ou les confiseries. On prend du fondant qui nous sert à faire les millefeuilles. On fait chauffer le fondant, on les éclaire et on les glace au fondant.
Bien.
Ils sont enrobés de cette petite croûte sucrée un peu blanche.
Moi, ça m'a beaucoup plu cette évocation, mais je vais vous dire, je trouve ça très bien d'aller chercher chez mon pâtissier. Si vous voyez ce que je veux dire.
C'est mieux d'aller chercher.
Toutes les étapes de la recette sont à retrouver sur le site rtl.fr. Et puis on vous retrouve ce soir, cher Cyril, avec notre camarade Philippe Cavrivière, pour Tous en Cuisine, où vous nous donnerez une très belle recette de côte de bœuf avec une ratatouille. Avec tout ça, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point sur l'information avec Dominique Tenzaï, dès 9h.
Un nouveau plan pour aider les chômeurs de longue durée, un plan inédit selon la ministre Elisabeth Borne qui promet de financer les entreprises qui aideront à cette formation prévue sur plusieurs mois. Le retour à l'emploi des chômeurs inscrits de longue date est une priorité du gouvernement. Ils sont un peu plus de 3 millions à rechercher un travail depuis plus d'un an selon les dernières statistiques. Vers une nouvelle journée éprouvante au palais de justice de Paris où l'enregistrement sonore de l'attaque du Bataclan sera tout à l'heure diffusé. Des photos des différentes scènes de crime seront également projetés. De nombreuses parties civiles ont choisi de ne pas venir à l'audience. Sans surprise, Olivier Faure a été largement réélu à la tête du Parti Socialiste hier lors d'un vote qu'il opposait à la maire de Vaux-en-Velin. Près de 74% des suffrages. Une élection qui sera entérinée ce week-end à Villeurbanne à l'occasion du congrès du PS auquel ne participera pas Anne Hidalgo, sans doute désireuse de se tenir loin de l'appareil politique. L'ambassadeur de France à Washington décide d'annuler la cérémonie qui devait célébrer ce soir l'amitié franco-américaine. Dernier épisode de la crise des sous-marins, Paris reprochant à Joe Biden d'avoir récupéré le contrat australien pour un montant de 56 milliards d'euros. Une trahison, ont estimé hier plusieurs ministres. Le football avec ce soir le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Premier derby avec du public depuis 2 ans. À suivre sur RTL dès 20h. Et puis la bonne opération hier des clubs français engagés sur la scène européenne. Victoire de Lyon face aux Glasgow Rangers 2-0. Monaco a battu Graz 1-0. Match nul pour Marseille face au Lokomotiv Moscou 1-1. Et 2-1. Pour Rennes, engagé contre Tottenham.
Et ce point de l'actualité nous était proposé par Dominique Tenza. Vous revenez lundi, s'il vous plaît.
Lundi, sans faute.
Tant mieux.